Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Mario Tennis Aces, de The Awesome Adventures of Captain Spirit et de Cultist Simulator. Programme chargé, mais on va essayer de tenir un dans un délai peut-être plus raisonnable que la moyenne de nos émissions. Mais là, si je continue à parler, par exemple, c'est une mauvaise introduction.
Je suis sûr qu'ils sont très très tristes de savoir que les émissions sont plus longues. Je suis sûr que ça les rend terriblement
tristes. Là, il y a énormément de plaintes. Pas du tout. Mais bon, bref. Et puis, le reste du programme, vous connaissez, mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, des croissants qui nous accueillent. Et c'est toujours aussi formidable. Bonjour, Corentin.
Salut, Erwan.
On commence avec toi, Patrick, avec des nouvelles de Telltale enfin.
C'était inespéré, on n'y croyait plus, et a priori, ils vont enfin changer de moteur.
Ouh.
Et oui, ça paraît incroyable, mais ils étaient, en fait, voilà, Telltale, donc éditeur de jeux spécialisé dans le, voilà, dans les aventures graphiques depuis de nombreuses années. Bah, ils travaillaient sur le même moteur propriétaire développé en interne depuis les débuts, en fait. Donc, ça commençait à marquer quelques rides, hein, quand même, ce moteur, on va dire. Et là, on apprend, a priori, c'est une grande rumeur du moment, qui passerait sous Unity, un petit peu comme tout le monde, hein. C'est quand même plus pratique.
Ouais, c'est soit ça, soit l'Unreal, quoi.
Donc voilà, en tout cas, voilà, ça va permettre a priori de passer
un cap.
Mais en même
temps, on comprend pourquoi ils étaient restés. Ils avaient un nom de moteur qui était cool, Telltale Tool.
Telltale Tool, ouais. J'ai essayé
un nom de Telltale Tool. Moi, franchement, j'ai un outil qui s'appelle Telltale Tool. Moi, je le garde.
Tu t'y accroches.
Je le garde. C'est comme ça.
J'avoue que ça sonne bien.
Mais blague à part, on est un peu inquiet pour Telltale, hein, depuis un moment, parce qu'on sait qu'il y a eu un grand écrémage en interne dans les équipes. Ils ont traversé une crise assez terrible. Voilà, Telltale, ils font partie quand même des gens qui ont contribué à remettre le jeu d'aventure en avant au début des années 2010, notamment avec The Walking Dead. Donc là, ils changent de moteur, c'est un signal plutôt positif. A priori, donc, le prochain Walking Dead serait le dernier à utiliser encore le Telltale Tool. Telltale Tool, hein.
J'adore.
D'ailleurs, ça sera le dernier Walking Dead, d'ailleurs. C'est la fin d'un cycle,
ils
finalement.
Ont annoncé que c'était la fin d'un cycle, donc la fin du moteur aussi, donc qui va être enterré avec un Walking Dead final. Et a priori, le jeu Stranger Things, basé sur la fameuse licence Netflix, serait le premier à utiliser les nouveaux moteurs Unity, le nouvel environnement du jeu. Alors oui, qu'est-ce qui se passe chez Telltale ? Ça a été compliqué. Il y a eu pas mal de gens qui sont partis, dont le fondateur Kevin Brunner, il y a l'année dernière, je crois en 2017, il est parti, et c'est le Variety qui a sorti des infos intéressantes, qui visiblement pointe un management du studio assez ésotérique de la part de Brunner depuis quelques années, en termes de gestion des équipes, de gestion des technologies, des gestions de prise de décision sur les licences. A priori, d'après Variety, hein, c'est eux qui sortent ça, le deal Netflix aurait pu se faire depuis très longtemps. On rappelle Netflix, donc licence Stranger Things, c'est quand même important. Et puis développement d'un, comment dire, d'une de la licence Minecraft aventure telle sur Netflix, qui va arriver en version interactive. Ouais. Il y avait déjà eu des tests chez Netflix de narration interactive
sur le chapeauté.
Exactement, on en avait parlé d'ailleurs.
Il y a une fiction interactive sur Netflix, je vous conseille d'essayer parce que c'est plutôt bien fait.
Et a priori, bon, bah voilà, Telltale va avoir son jeu, donc Minecraft, qui va arriver sur Netflix, c'est pas rien. A priori, donc, Brunner a visiblement pas mal ralenti les choses. Il n'était pas très, proactif sur ces questions-là. Donc, il est sorti de Telltale début 2017. Là, il poursuit Telltale. Donc, il était fondateur du studio, quand même.
Tu dis, il est sorti.
Gentiment sorti. Donc là, il attaque quand même le Telltale en justice pour licenciement abusif. L'article de Variety est vraiment intéressant parce que découpe vraiment tout ce qui a pu ne pas marcher chez Telltale depuis des années. Parce qu'on sait que Telltale va mal, c'est flagrant. Variety sort des infos, on s'en doutait un petit peu, mais ils le confirment. A priori, ils ont eu des informations sûres. Ils disent que les derniers jeux qu'on avait même parfois chroniqués ici, les Gardiens de la Galaxie, le deuxième Batman, le deuxième Minecraft, saison 2, feraient partie des plus mauvaises ventes du studio, y compris lorsqu'on prend toute l'histoire du studio.
Avant
Walking Dead. Donc ça donne quand même une idée de ce qui se passe, que ça ne va pas du tout. Alors c'est toujours facile, là on sort Brunner, on tape un peu dessus, il y a un côté quand ça ne va pas bien, évidemment on sort les dossiers, on a tendance à s'acharner, je pense que Telltale marcherait bien, on ne s'acharnerait pas comme ça sur Brunner, il faut garder tête froide. Je pense qu'on a besoin que Telltale marche bien. Le jeu d'aventure, c'est un genre qui est important, la narration interactive, on va en parler aujourd'hui avec un jeu Dontnod, on parlait de Quantic il y a quelques semaines, c'est des jeux parfois clivants, mais on a besoin d'avoir des acteurs comme ça qui entretiennent ce genre qui est vraiment important. On a besoin de ce genre parce qu'il amène beaucoup de gens aux jeux vidéo, parce qu'il a des mécaniques qui sont ouvertes, qui font jouer beaucoup de gens. Et Telltale, c'était un éditeur très important. Il a vraiment été parmi les locomotives à une époque. Ils ont su marier le côté licence avec des mécaniques qui se sont usées. Je pense qu'il y a eu un vrai problème de management et d'usure, a priori, ce que dit Variety, d'usure des équipes et d'usure des joueurs aussi. Il y a eu trop de jeux dans tous les sens.
Oui,
ils ont perdu la fibre.
Les gens de Telltale qui avaient beaucoup de talent, ils sont allés se faire d'autres studios.
Ah bah, Campo Santo, par exemple. Il y a eu des vraies perles qui sont nées avec l'ADN de Telltale, mais qui sont parties, comme tu disais, sous d'autres latitudes, pour créer aussi d'autres choses, d'autres formes narratives, en s'alimentant
Finalement, Telltale est hyper important, parce que 2012...
C'est un jalon important.
C'est le début du renouveau de la narration.
Exactement. Donc voilà, un deal avec Netflix, ça paraît important. Je pense qu'on a besoin d'un Telltale en forme. On espère que tout va s'arranger. En tout cas, il pose des bases pour une relance.
On a surtout besoin de bons jeux après.
Oui, parce que même les licences, je suis pas sûr que Stranger Things soit forcément quelque chose qui fasse rêver et automatiquement. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Moi, je pense qu'il faut peut-être aussi qu'ils créent leurs univers. Regarde Dontnod, ce qu'ils arrivent à faire. On va en parler tout à l'heure, mais créer des choses, c'est important. Ouais, enfin, et dans le jeu d'aventure,
Dontnod, c'est en dents de scie.
Oui,
on va en parler. Mais en tout cas, non, mais c'est important.
Vampire, par exemple. Bon.
Voilà, là c'est une autre catégorie. En tout cas, voilà, Telltale, on va suivre. On espère qu'ils vont se relever, qu'ils vont repartir du bon pied et nous proposer des aventures qui fonctionnent bien.
Quentin,
vous souvenez de Pokémon Go?
Non.
Non, vous n'en souvenez pas? Parce qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent et qui y jouent encore, figurez-vous. Parce que on a envie de se dire, ah, Pokémon Go, oui, c'est ce truc qu'on jouait il y a deux ans quand c'était la folie furieuse sur nos téléphones portables. Ouais. Puis en fait, non, il y a encore plein de gens qui y jouent, en fait. C'est des chiffres qui sont tombés. Là, c'est un analyste Superdata qui analyse pas mal d'applications, qui essaie de voir à quoi jouent les gens et combien ça rapporte, grosso modo. Et waouh, Pokémon, en fait, n'a jamais été autant joué qu'aujourd'hui, à l'exception du lancement, mais c'était tellement stratosphérique c'était ridicule et ça sera jamais égalé. Mais là, c'est le mois de mai a été le mois le plus haut en termes de masse de joueurs, Pokémon Go.
Depuis
le lancement.
C'est étonnant quand on sort dans la rue, on n'a plus forcément le phénomène qu'on avait à l'époque, il y a deux ans, où c'était vraiment flagrant.
En fait, je pense qu'on a tous été victimes du fait que le lancement était vraiment stratosphérique. C'est du jamais vu et c'était vraiment des chiffres débiles. Mais en fait, du coup, ça nous a un peu marqué en monde. On a vu que la chute, on n'a pas vu le reste. Mais en fait, la base de joueurs est encore immense. Et en plus, Pokémon Go rapporte encore beaucoup d'argent. Alors, c'est des chiffres qui ont été mis en ligne par Superdata, donc qui ont été retirés par la suite. Donc est-ce que c'est Pokémon Company qui a dit non, on veut pas que les chiffres sortent, ou est-ce qu'ils étaient pas si sûrs de leurs chiffres? Mais je vais quand même le donner.
Il ferait plus de joueurs actuellement qu'il y a deux ans.
Il y a plus de joueurs actuellement que l'année dernière au même mois.
Ah d'accord, après la courbe descendante.
Peut-être,
d'accord,
peut-être
okay.
que 4 mois après le lancement.
Ah oui, donc ça sera plutôt une courbe remontante éventuellement qui se stabilise.
Il y a eu le lancement, il y a eu un pic, oui, tout le monde a joué. Genre tout le monde a joué un mois.
Oui, c'était un vrai phénomène.
Voilà. Après,
c'est retombé assez vite.
C'est retombé parce que c'était des niveaux de jeu qui n'étaient pas tenables de toute façon. Mm-hmm. Et ensuite, ils ont trouvé leur rythme, ils sont retombés sur leur rythme de croisière. En plus, ils avaient été plombés à l'époque par différents problèmes techniques parce que Pokémon Go, c'est quand même un challenge et une communication désastreuse. Mais depuis ce temps-là, ils n'ont cessé de monter, en fait. Ça n'a fait que monter le public. Alors, donc, je disais, il y a un chiffre d'un chiffre d'affaires qui est sorti. Alors, il a été retiré depuis par Spare Data. Alors, est-ce que c'est parce que Pokémon Company a dit ah, non, on ne veut pas que ça sorte? Eurogamer l'a quand même dit, bon, on le met quand même, mais on ne sait pas trop pourquoi ils l'ont été retirés. Mais apparemment.
Ah oui, le pourcentage, c'est ça?
Non, vraiment le chiffre d'affaires. Donc, apparemment, ça aurait ramené 104 millions d'euros juste sur le mois de mai. Donc, c'est très rentable, d'autant que bon, entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Oui. Net, il y a peu de différence.
Je pense
dire.
Que là, ouais, c'est.
Voilà, mais en fait, voilà. Donc, je reprends l'article d'Eurogamer qui précise quand même et qui rappelle que depuis 6 mois, il y a pas mal de nouveautés qui ont été ajoutées au jeu. Et c'est vrai que on se souvient des débuts où il n'y avait pas trop de choses à faire. Mm. Aujourd'hui, voilà, il y a des événements liés.
Le jeu a continué
à évoluer. Et aujourd'hui, il y a des événements liés à la météo. Hein, il y a certains Pokémon qui s'attrapent s'il pleut ou s'il pleut
ah,
pas.
C'est bon, ça. C'était pas là au début.
Ah
ouais, c'est malin.
Il y a des missions quotidiennes qui permettent de récupérer. Donc, je sais pas, tiens, j'y joue plus. Confiance à Eurogamer sur ce coup-là.
Est-ce que tu penses que les actus de Nintendo, les annonces qu'on a vues sur les prochains Pokémon, est-ce que ça peut aussi contribuer à réactiver un petit peu genre
non, je pense
de...
que l'influence est inverse. Ouais, c'est les joueurs de Pokémon Go qui vont aller jouer
le phénomène en fait, sur Nintendo.
C'est plutôt, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux publics. Il y a le public des jeux Pokémon qui est déjà très gros, hein, et puis il y a le public qui a joué à Pokémon jeune ou avant et qui a arrêté d'y jouer et qui a été réactivé avec Pokémon Go parce que c'était plus accessible, c'était sur
gratuit,
le téléphone,
accès,
c'était plus ou moins, c'était free to play et compagnie. Et en fait, Nintendo avec Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu cherche en fait à recapitaliser encore plus sur ce public-là. Alors pas à 100% parce qu'il faut quand même une Switch, il faut machin, je pense qu'ils veulent capitaliser là-dessus. Et surtout, la semaine dernière, il y a eu une grosse nouveauté qui est arrivée, c'est l'arrivée des contacts, c'est-à-dire qu'on peut enfin devenir amis entre soi dans Pokémon Go, ce qui n'était pas possible.
Ah oui, ça n'existait pas.
Non,
ça
n'existait pas.
Pourtant, oui.
Et on peut échanger des Pokémon, ce qui était une fonctionnalité qui était demandée depuis très longtemps. Et ça, à mon avis, ça réactive beaucoup.
Il a fallu 2 ans pour que tout ça arrive.
Mais en fait, c'est un vrai challenge, un Pokémon Go, même si, à mon sens, je remets pas en cause le challenge technique que c'est, mais c'est surtout la com. Enfin, moi, je trouve que Niantic ne sait pas communiquer et c'est terrible. Bref. Mais bon, voilà. Donc, Pokémon Go, vous allez encore en entendre parler a priori pour un long moment. Nintendo Labo aussi a annoncé, donc du côté de chez Nintendo cette fois-ci, que Mario Kart 8 allait être compatible avec le labo multi-kit.
Donc, oui, c'est le guidon de moto.
Le guidon de moto, donc grosso modo, il y a une mise à jour qui a été faite cette semaine sur Mario Kart 8, une mise à jour gratuite et qui permet en fait de jouer avec le guidon, comme tu dis, donc avec la Switch au milieu, et on peut contrôler Mario, enfin Mario,
je
n'importe quel personnage.
Je peux émettre quelques doutes quant à la précision de la conduite avec le guidon en carton.
Je pense que c'est pour les enfants, de toute façon, comme Nintendo Labo. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que je me dis, waouh, en fait, j'avais pas pensé à cette idée que Nintendo Labo allait pouvoir avoir des synergies avec d'autres jeux comme ça. Et je me dis, waouh, pourquoi pas d'autres jeux compatibles.
Non, mais ce qui serait cool, c'est d'avoir une sorte d'API Labo avec les autres jeux disponibles sur la Switch. C'est-à-dire qu'en fait, on puisse finalement adapter le Labo à tous les jeux de la Switch.
Et en plus,
adapter Zelda, il y aurait des API avec comme le K-mapping
c'est tout à fait possible parce que je crois, alors j'ai pas Nintendo Labo mais il me semble avoir vu ce mode là, il y a bien un mode totalement libre où en fait on peut avoir des entrées, des notes, des points de sortie.
Mais il n'y a pas de compatibilité avec les autres jeux en fait.
Lors des sorties multiplateformes, tu dirais ah ouais, mais sur Switch je vais pouvoir me faire un déguisement en carton, c'est quand même la version supérieure.
L'idéal, ce serait vraiment de créer cette API Labo.
En laissant les développeurs pouvoir implémenter
les utilisateurs, avoir une interface de développement. En plus, ils ont fait cette interface Lab dans Labo. Et je trouve que ce serait assez intéressant d'avoir un côté comme ça de communication avec tous les jeux. Tous les jeux sont compatibles.
Je suis entièrement d'accord. Ce serait cool à faire. Et d'autant plus qu'on verrait plein de petites expérimentations en game jam, dans des expos et trucs comme ça. C'est vraiment chouette. Bref, encore une fois, bonne idée, Nintendo Labo. De toute façon, pour moi, c'est une somme de bonnes idées qui ont été mises en application.
Je suis en train de monter le robot là.
Alors,
et alors
ça va,
c'est long.
Un peu plus, on va dire, sérieux militaire PUBG Corp qui a abandonné les poursuites qu'il avait entreprises contre.
Mais c'est
Epic
pas Blue
Hole Games.
C'est quoi PUBG Corp?
Alors, moi, j'ai lu PUBG Corp, donc peut-être que c'est la holding qui détient la marque PUBG. Blue Hole serait le développeur. Je ne sais pas. J'ai lu PUBG Corp, moi, donc il faudra demander. Mais c'est sûrement.
Non, mais j'ai lu aussi. J'ai lu aussi la même news. Bien et j'ai pas été voir.
Non, moi non plus.
Mais c'est peut-être un truc avec Tencent et tout ça.
Oui, exactement. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Ouais. Peut-être que Blue Hole détient seulement les droits sur le jeu PC et que Tencent soit un peu plus impliqué dans le jeu mobile. Mais voilà, c'était de toute façon une poursuite qui était un petit peu pas justifiée dans la mesure où ils attaquaient vraiment sur une idée de game design, qui ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle ou d'ailleurs industrielle. Donc voilà, c'était à perte. Et puis bon, il y avait toutes ces histoires de conflits d'intérêts parce que Epic Games, c'est eux qui développent le Unreal Engine sur lequel tourne PUBG, et puis il y a Tencent par-dessus tout ça qui a des parts dans les deux boîtes. Bon, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'en fait ça arrangeait tout le monde que cette plainte ne soit pas poursuivie, et surtout ça marque peut-être la fin de la guerre entre Fortnite et PUBG, en tout cas on l'espère. Et enfin Sony qui réagit au drama du crossplay.
On a le droit combien de news, ce genre il fait cul de moi.
Désolé. Ben, c'était une semaine chargée.
Mais oui, allez, on y va.
Sony qui réagit au drama du cosplay crossplay.
On en avait parlé la semaine dernière.
Le drama du cosplay, bientôt Japan Expo.
Exactement. Donc c'est Sean Layden, patron de Sony Interactive Entertainment America, qui le dit avec une langue de bois légendaire. On entend les problèmes, on entend vraiment. On cherche des solutions qui peuvent, grosso modo, plaire aux joueurs sans toucher à notre
contrôle. Damage control,
sans toucher à notre business. Voilà pourquoi. Parce que Sony n'a pas envie d'avoir, comme on l'avait dit, je crois, des objets achetés sur Xbox utilisés sur son PSN. Donc
attention au bad buzz en même temps.
C'est un équilibre. Peu de temps après l'enregistrement, Nintendo a sorti un trailer sur Minecraft, mais c'était un tac à Sony. C'est genre Xbox et Switch main dans la main, on joue à Minecraft, jouons ensemble.
Mais oui, c'est un message de paix universel.
Mais j'attends mais c'est violent, Nintendo, t'es devenu violent, qu'est-ce qui se passe, c'est fou. Moi je m'attendais ça de la part de Microsoft, mais non, c'est Nintendo qui attaque, quoi, sérieusement. Et du coup ça prouve que la pression augmente sur Sony, qui va devoir bouger. Là je pense qu'il n'y a plus le choix. Ils ont tellement tout le monde sur leur dos qu'ils vont devoir bouger.
C'est le danger quand t'es en position ultra dominante. Si tu commences vraiment à faire n'importe quoi, et ta position dominante, tu peux la perdre. Tu pourrais. Le com des coms de la semaine dernière. Lol. Évidemment, beaucoup, quasiment exclusivement. Ça a parlé beaucoup de l'OMS. Hein, ça a commencé avec un pavé de première contribution de Gronodo au forum de Silence on Joue, qui a fait donc un pavé sur notre discussion. Et donc j'ai pris les passages parce qu'il y a eu toute une discussion. C'est ça qui est génial, c'est dans ces forums, c'est la possibilité, même quand il y a des désaccords, d'avoir des discussions posées et argumentées. Et là, c'en est un bel exemple cette semaine. Donc Gronodo qui nous dit: face à une approche scientifique qui prend toutes les précautions pour se vouloir objective et basée sur les faits, les membres d'une communauté se braquent et ont l'impression qu'à travers ce biais tout leur milieu est attaqué et mis en péril. Il dit aussi que dans cette discussion, alors il reproche à certains et tout ça, il dit que certains ont raison, d'autres ont tort. Après, c'est la même chose que ce qui s'était passé dans Détroit. Il faut pas oublier que dans le genre de discussion, dans le studio d'enregistrement de Silence on Joue, les discussions sont d'autant plus intéressantes et les arguments vont d'autant plus loin que les discussions sont polarisées.
Voilà.
Et c'est ce qui s'était passé dans Détroit où Patrick avait fini en défenseur absolu de Détroit et moi en procureur absolu, alors que finalement nos positions étaient beaucoup plus nuancées. Et là sur l'OMS, c'est finalement la même chose qui se passe. Moi j'avais eu finalement la chance et l'opportunité d'énormément travailler le sujet parce que j'avais fait un événement et on avait fait la une de Libération dessus le jour même de l'enregistrement. Donc j'étais hyper chaud sur tous les trucs.
En plus permis d'avoir toutes les armes nécessaires pour jouer le rôle d'avocat aussi de l'OMS.
Exactement. Donc c'est pour ça que je voulais revenir, parce qu'il y a eu des choses qui se sont dites dans les forums qui sont à mon avis pas forcément justes vis-à-vis de vous deux, notamment sur le travail journalistique, alors que vous êtes d'excellents journalistes, donc c'est pas du tout ça le sujet. Il faut pas oublier que dans ce studio-là, quand il y a des débats, c'est forcément artificiellement polarisé. C'est pas artificiellement, on le choisit pas, on dit pas toi tu vas être pour, toi tu vas être contre. Mais finalement, dans la discussion, c'est comme ça que ça se passe. Bref, je voulais revenir sur la discussion qu'il y a eu dans les forums. Red qui répond: tu oublies de dire, Gronodo, que les scientifiques reconnus que tu mentionnes ne sont pas d'accord entre eux. Oui. Ensuite, si l'ambition humaniste du projet est légitime, ce n'est pas ce qui est mis en avant par les médias, et cela peut et surtout doit s'anticiper. Le manque de clarté dans la communication de l'OMS est indéniable. Gronodo qui revient, effectivement tous ne sont pas d'accord. Après, il faut garder à l'esprit que c'est le cheminement normal des sciences appliquées. Des experts émettent des théories qui sont acceptées partiellement comme base jusqu'à ce qu'elles soient affinées ou contrariées. Contrariées, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Contredites par des preuves complémentaires. Et puis j'ai tendance à estimer qu'un panel d'experts reconnus par l'OMS, donc l'ONU, a suffisamment de légitimité et d'objectivité pour apporter un avis scientifique éclairé. Enfin, je sais, peut-être trop naïf, je l'accorde. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais enfin, en tout cas, il y a eu plein de discussions. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'était vraiment des réponses argumentées et tout ça. Vous êtes formidables, chers auditeurs de Silence on Joue et chers forumers.
Pas les mamans, juste.
Allez, on va commencer à parler de jeux vidéo et on va commencer par le retour du tennis et de Mario. On est dans la catégorie les jeux qu'il faut à la Switch, les licences qu'il faut à la Switch. En fait, maintenant,
les cases à cocher. T'sais.
Exactement, les cases à cocher. Est-ce qu'il en manque ? On en est où des cases ? Il n'y a pas encore les Pikmin,
il n'y a pas Smash,
il n'y a pas de Star Fox, il n'y a pas de F-Zero. Mais on commence à cocher les cases. Et il fallait évidemment un Mario Tennis, Corentin.
Oui, bon, Mario Tennis, hein, qui est une licence, on va dire, qui date de la Nintendo 64. C'est la licence qui a vu naître Waluigi, RIP, hein, pas dans Smash, désolé. mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qu'on attend toujours un petit peu parce qu'on se dit, bon, c'est marrant, c'est un peu le Mario Kart du tennis, tout ça. Ça permet de jouer au tennis sans forcément jouer. Comment il s'appelait le jeu de Big Ben, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui n'était pas ouf, j'ai oublié, mais ça permet de jouer au tennis, voilà, en se marrant et en surtout en donnant la manette à n'importe qui et qu'il puisse quand même s'amuser sans être un as en connaissant les subtilités du lift, du coupé. Du lob et du top spin, grosso modo. Donc, c'est toujours sympathique. Moi, j'aime toujours la démarche de prendre un genre sportif qui peut être particulièrement, on va dire, complexe et d'en faire quelque chose d'accessible à tout le monde, de marrant et tu peux jouer avec tout le monde.
Arcade.
Donc, Mario Tennis Aces, donc, est le successeur d'une lignée assez riche, finalement, de jeux qui date de la Nintendo 64, qui a fait des détours par la GBA. Il y a un épisode GameCube aussi qui était pas mal. Il me semble sur Wii et 3DS, il n'y a plus en avoir, je ne me rappelle plus trop de cela, mais surtout, il y a eu la grosse déception de Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U, qui était une honte, mais vraiment une honte. C'était vraiment, on n'a plus de jeu, la Wii U, c'est une catastrophe, il faut sauver les meubles, je pense qu'ils étaient à fond sur la Switch déjà à ce moment-là, c'était en 2015, et ils nous ont sorti littéralement un mode multijoueur d'un jeu de tennis lambda, le personnage était dans leur tenue normale, alors que là, même là, Mario, je veux dire, il a la petite casquette de tennis, il est là pour ça. Là, vraiment, on a mis les personnages de Nintendo dans un jeu de tennis et c'était une honte tellement il n'y avait pas de mode, tellement il n'y avait rien, il n'y avait pas de mode solo. Le gimmick principal du jeu, c'était de devenir immense et c'était pas intéressant, ça n'apportait rien. Et du coup, c'était extrêmement décevant, d'autant que c'était un jeu vendu plein pot et vraiment, on n'a pas compris à ce moment-là. Donc, ce Mario Tennis Aces, j'ai un peu le sentiment à titre personnel que c'est le vrai. Ils ont fait leur petit moteur. Il marche sur Mario Tennis Ultra Smash, parce que c'était des choses qui allaient bien quand même. Et ils ont dit, bon, bah maintenant que ça s'est fait, on va peut-être faire un vrai jeu autour, tu vois. Et c'est en effet, c'est passé, voire même.
C'était
un early access, d'une certaine manière, mais vendu 50 boules. Et voilà. Tu dois racheter Mario, Mario Tennis ça Aces pas, quand même. Donc là, cette fois-ci, c'est sur Switch. Et cette fois-ci, c'est. Alors, il me semble pas que c'était Kaamelott sur Ultra Smash, mais là, c'est Kaamelott. Et Kaamelott, c'est pas n'importe quoi, parce que Kaamelott, c'est tous les Mario Golf, c'est tous les Mario Tennis. C'est pas de la Kaamelott, c'est malin. Et surtout, Kaamelott, ils étaient connus quand même à l'époque de la GBA pour faire des jeux de sport mais avec des dimensions RPG très prononcées. Je sais pas, on avait parlé de Golf Story ici ou pas?
Yep.
Bah, Golf Story, c'est exactement la tradition, l'esprit de tout ce que Kaamelott avait l'habitude de faire. On jouait souvent des personnages, pas forcément Mario d'ailleurs, qui évoluaient dans des mondes qui sont basés autour du sport et on faisait évoluer son personnage, puis on faisait des matchs de tennis et tout ça. Et du coup, c'était vraiment sympa parce que c'était un mode solo qui suffisait presque à lui-même et qui en plus apportait le mode multijoueur et du système de Mario Tennis ou Mario Golf en l'occurrence pour Kaamelott. Ici donc c'est un peu la tentative qui a été faite aussi sur ce Mario Tennis Aces, donc il y a un mode solo on va dire qui est un peu plus consistant que ce qu'on a pu voir sur d'autres jeux. Et c'est pas aussi bien que ce qu'on pouvait l'espérer, hein, clairement. Donc on est dans un monde, on va dire, on se déplace un peu comme sur un plateau de Mario Party avec des cases. qui représente chacun des niveaux ou n'importe quel monde en fait overworld d'un Mario classique, et on enchaîne les matchs contre des bots, les petits défis, voilà, c'est l'histoire est nulle, il y a pas d'histoire, on s'en fiche complètement, mais bon, à la rigueur on n'attend pas forcément une histoire,
il y a pas d'enjeu narratif,
il y a pas d'enjeu narratif extraordinaire, donc il y a une raquette ancestrale qui a été déterrée par Wario et Waluigi et ils veulent dominer le monde, voilà, fin. il faut les empêcher
et il faudra combattre Bowser,
et il faut les empêcher. Ah bon, alors étonnamment Bowser n'apparaît que très tard, mais oui il faut
une grosse statue
Bowser.
Là la grosse statue qui est dans les boules de feu,
la grosse statue, ouais c'est ça. Et donc voilà, alors ce mode solo a le mérite d'être là, hein, déjà. Parce que par exemple dans Mario Tennis Ultra Smash c'était juste tu fightais 10 bots et à la fin t'avais une coupe, là voilà t'as quand même des mini-jeux, t'as des boss qui sont très inégaux, ils sont pas tous intéressants, et surtout bah ça t'apprend un peu à jouer finalement, ça t'apprend les subtilités, enfin peut-être pas les subtilités, mais disons qu'il y a des personnages qui vont être plus axés sur la puissance, d'autres qui vont être plus axés sur le zonage, le fait de bien recouvrir toute la zone. Il va y avoir des défis où on va te faire un coup sur deux tu lobes, un coup sur deux tu amortis, ce qui permet de te faire comprendre que il faut un petit peu t'approprier le terrain adverse, essayer de placer la balle là où il faut. On va aussi t'apprendre à viser, c'est-à-dire que tu vas avoir par exemple des barricades d'ennemis et ils vont te lancer par exemple des boules de feu et toi tu vas renvoyer les boules de feu sur eux. Donc l'ennemi qui est en haut, il va falloir lober, l'ennemi qui est en bas, il va falloir l'amortir, l'ennemi qui est sur le côté, il va falloir lui faire une coupée pour que ça fasse une belle rotation. Donc ça t'apprend quand même les bases du jeu, et il est pas mauvais ce mode solo, mais il est un peu feignant quoi. Il est poussif, il va pas très loin, on n'a pas envie de continuer nécessairement. Il y a des défis qui sont, mais on comprend pas quoi. Genre il faut envoyer l'équivalent de 400 points en termes de retour. Donc à chaque fois que tu renvoies la balle, c'est un point, et tous les 10 retours, t'as un bonus combo, donc ça va de plus en plus vite en vrai. Mais il y a des moments, c'est incompréhensible quand tu le fais sur un terrain spécial avec un mât au milieu. Et donc si tu frappes le mât, ta balle est déviée et c'est un peu aléatoire. Et bizarrement, hein, l'ordinateur lui, c'est toujours des rebonds favorables, toi ça sort toujours ou ça fait n'importe quoi.
Aïe.
Bon,
aïe.
C'est super frustrant ce genre de truc là.
Ça se fait pas. Mais non, ça se fait pas.
Ou alors il fait un super smash machin, donc toi tu essaies de te placer à l'endroit où tu penses que ça va arriver, et le coup part à l'opposé, et bien sûr il y a que le bot qui peut faire ça, et t'es en mode bref. Et pour les boss, et je m'arrêterai là avec le solo, je comprends pas ce qu'il aura pris, mais grosso modo ils ont la barre de vie de Mario, enfin la caractéristique de défaite, la condition de défaite, ça va être le temps. Donc si vous prenez une boule de feu, si vous marchez sur un piège, si vous tombez sur une bombe, ou si vous laissez passer des balles qui touchent le fond du cours, ou si vous faites des fautes, ça va diminuer votre temps. Vous avez un chrono et ça diminue votre temps.
C'est chelou.
C'est trop chelou. Parce que par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que les boss sont en trois phases, donc vous devez leur envoyer des balles et
comme
finir
d'hab.
Sur machin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur la dernière phase, vous voyez qu'il vous reste 50 secondes et vous savez que vous n'aurez jamais le temps de finir. Et vous faites, pourquoi vous faites ça? Bref. Et moi, ça m'est arrivé notamment sur le boss de fin où je savais d'avance que ça n'allait pas être possible. Et il n'y a pas de bouton réessayer. Qu'est-ce que vous faites, franchement, Kaamelott? On est en 2018, il n'y a pas de bouton réessayer, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Donc, quand vous mourrez, quand vous perdez un niveau, vous êtes obligé de revenir à la map. Non, pardon, pas tout de suite à la map, vous avez un dialogue de vous avez perdu. Vous revenez à la map, vous relancez le niveau, vous avez un dialogue que vous pouvez passer avec plus, mais souvent vous plantez parce que vous n'avez pas appuyé sur le niveau. Donc, en fait, vous retournez au menu encore avant parce que c'est mal branlé. Et ça prend une demi-heure. Je veux dire, je rigole pas.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire militer pour qu'il y ait une formation continue en game design?
Je comprends pas.
Pour que les game designers, en fait, partout dans le monde,
ouais.
Partout dans le monde, que tous les ans, les game designers ils regardent les choses un peu nouvelles, un peu.
C'est pas un parti pris.
Non, c'est pas
expliqué.
Des oublis, et c'est pas les seuls. Il y a plein d'oublis comme ça. Par exemple, on peut pas choisir directement son terrain en mode local. Pourquoi ne pas donner le choix du terrain en mode local? Donc vous avez le choix entre aléatoire tous les terrains, aléatoire certains terrains. Donc après vous pouvez choisir et désactiver tous les autres terrains si vous voulez. Le terrain en particulier. Vous voyez où on en est?
Oh
ou
merde.
Alors le terrain normal. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Alors j'ai pas pu essayer, mais apparemment quand vous voulez organiser des matchs à 4 joueurs, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire des lobbies à 4 pour jouer en double, mais vous ne pouvez pas choisir avec qui vous jouez. C'est-à-dire que les équipes sont faites aléatoirement apparemment. Alors c'est des retours que j'ai eu. Mais enfin, faites-le tester votre jeu, on va vous le dire ça, mais pas besoin de faire des longs playtests. Et j'arrêterai là pour tout ce qui est mauvais parce que tout le reste est bon. Vraiment, vraiment très bon dans ce Mario Tennis. Le système de jeu, c'est un joyau. Vraiment, ils ont vraiment fait un système de jeu qui est magnifique. Donc, le centre de ce système de jeu-là, c'est la barre d'énergie. Donc, en match normal, c'est-à-dire avec tous les pouvoirs, vous allez avoir une barre d'énergie qu'il va falloir gérer et qui est très importante parce qu'elle va servir à plein de trucs. Elle va servir à ralentir le temps et à courir. Vous courez à vitesse normale, mais le temps ralentit. Donc ça vous permet de récupérer des balles qui sont compliquées à avoir. Mais voilà, le temps que vous appuyez dessus, votre barre se vide. Hein. Oui. Donc il faut gérer sa balle, sa barre. Elle peut servir à faire des sauvetages de dernière minute. Donc en fait, d'un coup de stick, si vous jouez avec la manette pro ou alors en faisant un double lob, bon, il y a une manipulation qui est pas pratique du tout, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que quand vous jouez au Joy-Con, c'est compliqué. Mais vous pouvez faire un sauvetage de dernière minute, donc votre personnage fait un saut ou un moonwalk, machin, mais le temps s'arrête et il va récupérer une balle qui est pas récupérable normalement. Et ça permet de sauver vraiment beaucoup de situations et ça donne des matchs vraiment marrants à regarder où tu dis ah, mais là il va se faire avoir, non, il fait un saut de dernière minute, il va le chercher. Et je crois même que dans certaines conditions, ça peut vous rendre votre énergie si vous le faites très très loin, que c'était vraiment la seule solution. Donc il y a vraiment un risk-reward sympa, mais ça marche pas non plus à tous les coups, hein. il faut savoir gérer. Et alors ça, c'est pour l'aspect défensif, et il y a l'aspect offensif. Grosso modo, quand la balle est suffisamment haute, ça c'est le système traditionnel des Mario Tennis, il y a une zone au sol qui apparaît, donc en l'occurrence une étoile. Ça veut dire quoi l'étoile ? Ça veut dire que, un, si jamais vous êtes, si jamais elle est très haut, vous vous mettez sous l'étoile, vous préparez votre match et vous mettez un gros coup à l'adversaire en face. Et si vous avez de la barre, suffisamment de barre, au moins un tiers de barre, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une frappe instinct. La frappe instinct, votre personnage saute et le temps s'arrête. Là, vous devez viser, donc au gyroscope, donc c'est plutôt précis, un endroit de la map et vous allez frapper très fort. Et l'adversaire va devoir récupérer cette balle. Sauf que les frappes fortes comme ça, si elles sont mal récupérées par l'adversaire, abîment la raquette. Sauf que si vous, si vous n'avez plus de raquette, vous avez perdu. Donc il y a une gestion de la barre de vie de votre raquette à gérer. Et des fois vous vous dites, est-ce que je récupère cette balle ou est-ce que je prends, c'est pas grave, je prends le point, c'est pas un point très important, voilà. Et évidemment en face, quand vous avez une méga frappe, vous pouvez utiliser votre pouvoir de ralentir le temps pour bien faire la frappe, bien récupérer la barre, parce qu'en fait si vous frappez trop tard ou trop tôt, votre raquette s'abîme. Vous comprenez ? Et donc c'est super intéressant. Et aussi vous avez aussi le choix de sélectionner immédiatement un endroit très vite au risque de faire une faute. Moi ça m'arrive souvent de faire une faute parce que je lance la super attaque et j'ai envie de mettre très très vite un coup pour pas laisser le temps à l'autre de réagir, et je vise mal et je vise à côté et machin, ou alors prendre le temps pour bien le mettre au fond du court et laisser l'autre vider bien sa barre d'énergie et qu'il se retrouve à poil pour un éventuel point et prendre l'avantage sur le long terme. Donc c'est vraiment super intéressant, il y a vraiment une gestion de la barre qui est profonde, et vous avez évidemment, quand votre barre est remplie, une vraiment super attaque qui est gratuite, c'est-à-dire qu'à tout moment vous appuyez sur un bouton, quelle que soit la balle, donc ça peut être joué en défense aussi, si la barre est irrécupérable vous déclenchez votre attaque, et là cette super attaque est d'autant plus puissante que si le mec en face la récupère mal, c'est toute la barre de la raquette qui s'en va, donc la raquette est cramée si jamais il la récupère trop tôt ou trop tard. Et donc voilà, c'est à réfléchir. Moi quand j'ai plus qu'une raquette et que le mec me fait une super attaque et que je vois que je suis à 30-0, vas-y prends le point, c'est pas grave, tu vois, je m'en fiche. Et donc voilà, ça donne vraiment des matchs impressionnants où la gestion de l'énergie est très intéressante, avec du risk reward, différentes manières de gagner.
C'est quand même dommage d'avoir un peu patiné sur le reste.
Oui, je suis absolument d'accord.
Parce qu'en fait le cœur du jeu, c'est quand même ce qui est important, mais en même temps les petits détails, c'est ce qui gâche l'expérience. Alors qu'il y a un truc excellent.
Il y a vraiment eu, tu sens qu'ils ont mis tout leur cerveau sur le système de jeu qui est vraiment réfléchi, bien pensé et tout ça, et qui alors j'irais peut-être pas dire de manière compétitive, mais compétitive comme un Mario Kart, c'est-à-dire que tu sais, il y a des gens quand même qui savent jouer à Mario Kart et qui aiment bien s'affronter sur Mario Kart. Et là typiquement ce jeu-là, avec sa gestion des pouvoirs et du tennis traditionnel, hein, avec aussi les lobes, les trucs classiques, si le personnage en face est très proche du filet, vous allez le lober pour un peu l'avoir, ou s'il est loin, au contraire, vous allez lui faire un amorti. Voilà, il y a aussi cette stratégie-là du tennis classique où il faut bien investir le terrain, mais voilà, il y a toute cette gestion-là qui est bonne, et bêtement, ils ont raté plein de trucs. Alors, je tiens à préciser qu'il y a une mise à jour qui va pas tarder, ils vont acheter des personnages régulièrement. On peut se dire que dans les mises à jour, ils vont arranger ça, ils vont corriger les problèmes avec les nombreux retours qu'ils ont. Ah, et dernière chose qui rentre là-dedans, il y a plein de gens qui demandent à se faire rembourser le jeu. Il y a une partie de la communauté qui demande à se faire rembourser le jeu parce qu'on ne peut pas organiser des parties normales de tennis avec 3 sets et des jeux qui vont à 6. Là, les jeux vont jusqu'à 2, je crois. Enfin, c'est le premier à 2 qui gagne le set. Et il y a plein de gens qui disent, mais non, on veut faire un vrai match de tennis, donc donnez-nous la possibilité, au moins en local, alors en ligne on peut comprendre, mais au moins en local, donnez-nous la possibilité de choisir le nombre de sets et le nombre de jeux. C'est incroyable.
Même
de,
en ligne.
En ligne c'est plus compliqué, parce que comme c'est des matchs rapides et tout, et qu'il y a des tournois en fait qui sont organisés, je peux comprendre qu'ils verrouillent un petit peu le type de match, mais ou en ligne en tout cas, entre amis, oui, on est d'accord, dans des lobbies, tu devrais être capable de choisir de A à Z ce que tu fais dans ta partie. Je vois pas pourquoi mettre des limitations. Ça, à mon avis, ça pourrait être corrigé dans des patchs qui vont arriver si Nintendo ouvre les oreilles, et l'histoire nous a montré ces derniers temps que Nintendo a plutôt tendance à ouvrir ses oreilles, donc On peut croiser les doigts, en tout cas Mario Tennis, intéressant, intéressant.
Cool, merci Corentin.
De rien.
Allez, on va arriver avec un jeu gratuit, c'est suffisamment rare, enfin sauf un jeu gratuit mais non free-to-play.
Un vrai jeu gratuit. Sans truc à acheter dedans.
Voilà, un vrai jeu gratuit, The Awesome Adventures of Captain Spirit.
Yes, Captain Spirit saved us!
I like when the good guys win.
Me too. Under the
Are you sure you want to go on this dangerous mission?
Now you are ready to battle with Captain Spirit. Yes!
Captain Spirit is here!
On attendait le retour du Dontnod qu'on aime et qu'on a aimé et qu'on voulait retrouver, le Dontnod de Life is Strange, évidemment, ce chef-d'œuvre qui nous a enchanté en 2016, si je ne m'abuse.
2016, ouais. 2016, ouais, ça a été étalé.
Début 2016, je crois que c'est début 2016. Bon, bref, Life is Strange qui arrivait après Remember Me, qui avait plein de qualités, mais pas que des qualités. Life is Strange, et puis après, il y a eu le préquel de Life is Strange, mais qui n'était pas développé chez Dontnod. Il y a eu Vampyr qui a pas été, enfin voilà, qui sortait un peu du savoir-faire. Mais bon, on vient d'en parler, on va pas revenir.
Qui retournait sur Remember Me, en fait, c'est le même état d'esprit, en fait.
Ouais, mais bon, on va pas reparler de Vampyr parce que c'était il y a deux ou trois semaines.
Non,
seulement.
Je pense qu'on repart une demi-heure sur Vampyr. Ouais.
Et donc, Captain Spirit annoncé à l'E3, inattendu,
ouais,
une sorte de jeu teaser de Life is Strange 2. Là, pour le coup, on est dedans. Life is Strange 2 est prévu pour la fin d'année, si je ne m'abuse.
Fin septembre.
Le premier épisode. Donc, jeu par épisode, évidemment, comme d'habitude. Mais là, est-ce qu'il y a une meilleure publicité, finalement, une meilleure façon de vendre un univers, de vendre une ambiance, un état d'esprit, que de proposer cette expérience de quelques heures qui raconte la vie d'un petit garçon, Patrick?
Oui, alors tu disais, ça a été annoncé pendant l'E3, c'était une des surprises de l'E3, parce qu'on apprenait non seulement qu'il y avait cet épisode, on va dire, autonome qui sortait, qu'en plus il serait gratuit. Et alors, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure des recettes usées à la corde de Telltale qui n'arrive plus à surprendre personne, qui s'est enfermé dans une routine. Et là, Dontnod, il crée vraiment la surprise à l'E3 en disant voilà, il y a un épisode. Voilà, un épisode qui va annoncer Life is Strange 2. Tout le monde attend Life is Strange 2. Et puis, il y a ce jeu qui sort. Alors, déjà, l'objet en soi, avant même d'entrer dans le scénario, est assez fascinant parce que c'est pas une démo, c'est vraiment comme un mini-jeu de 2-3 heures, si on veut vraiment fouiller le jeu entièrement. Qui pour moi, enfin, quand on compare à ce qui se passe au cinéma, où aujourd'hui on a un vrai problème avec les trailers, les bandes annonces, on en parle parfois ici, des bandes annonces qui en disent trop, ou qui balance les meilleurs moments d'un film, qui spoil, qui casse à la limite complètement, ou qui survend un film à venir. Là, et ben, avec Dontnod, je trouve qu'ils ont trouvé une formule qui montre en quoi, voilà, un concept comme ça de jeu vidéo qui amorce une série à venir peut vraiment créer une attente. Et je trouve que là, ils ont vraiment réussi leur coup avec ce jeu autonome qui ouvre à ce que ce pourra être Life is Strange.
Ce qui n'est pas totalement une première. Hein. On se rappelle du très très mémorable, pour le coup, qui était un teaser aussi, mais qui n'a pas donné lieu à un jeu, playable teaser, Pity, d'Hideo Kojima. Non, mais
il faut garder précieusement sur sa console.
Ils ont pris l'idée du playable teaser. Hein. C'est vraiment un teaser.
Je crois qu'il y a Capcom qui avait fait des choses comme ça avec Dead Rising 2, mais je crois que c'était payant, à vérifier. Je crois qu'ils avaient eu des choses sorties avant le jeu, mais bon, il me semble qu'ils étaient en petit paiement.
La différence avec Pity, c'est que c'était un teaser. Donc, on savait pas à quoi on jouait avant d'y jouer. Alors que là, on sait à quoi on jouait.
On savait pas si c'était une maquette. c'était là, on sait que c'est un épisode autonome qui a sa vie propre et qui ouvre certainement, on le sait, qui ouvre des choses sur la suite, mais qui se vit comme une aventure gratuite et
c'est
qui,
un échantillon gratuit
qui,
pour moi.
Qui fonctionne tout seul. Et déjà, l'objet est vraiment fascinant. Je trouve qu'en termes de, ils ont vraiment trouvé une formule qui réactive complètement l'attente qu'on pouvait avoir ou pas pour Life is Strange 2, parce qu'on a toujours des doutes évidemment sur un quand un voilà une première saison on fonctionne autant et voilà on, qu'est-ce que ça va donner cette suite et là bah machouk les voilà les signaux sont vraiment ouverts. Alors déjà rupture par rapport à Life is Strange 1, il y a des clins d'œil évidemment, il y a des raccords, il y a des mais c'est une histoire qui peut se vivre si vous n'avez pas fait la première saison, vous pouvez tout à fait lancer cet épisode qui comme je disais peut durer 2-3 heures peut-être si vraiment on veut tout compléter. On va donc suivre, on incarne, je sais pas si on peut dire qu'on incarne, on dirige.
Oui, bien sûr, on incarne quand même.
On dirige Chris, un petit garçon, on est dans un huis clos. On est dans un huis clos. C'est peut-être aussi, je trouve que c'est aussi l'intelligence, je pense, de cette mini-aventure, c'est de rester sur un format assez resserré et très dense. Enfin, c'est ça que j'ai vraiment que je retiens de ces deux heures de jeu.
Qu'est-ce
que
tu gardes du huis clos? J'ai pas trouvé que c'était un huis clos, moi. On peut sortir, il y a des gens à l'extérieur.
Avec deux personnages.
Ah.
Avec deux personnages.
Ah, en fait, il y en a plus.
Il y en a un peu plus, mais j'ai deux personnages principaux et ce qui se passe entre deux. Pour moi, c'est un huis clos. Tu pars pas dans une ville dans tous les sens. Et je trouve que l'échelle même du projet est plutôt bien trouvé.
Plutôt une unité de lieu.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire, ça tient à cœur, ça, l'unité de lieu.
C'est important. C'est important. Et en tout cas, je trouve que l'échelle est bien. Et en même temps, ce qui est fort, c'est qu'en deux heures, il se passe énormément de choses. Il se passe pas grand chose, et en même temps, on vit énormément de choses derrière sa manette. Donc, on incarne ce petit garçon, je crois qu'il y a 10 ans, si je dis pas de bêtises.
10-12 ans.
Ouais, à peu près. Et voilà, il se réveille dans. Voilà, l'action commence, il est avec son père, et très vite, on va comprendre que son père a des problèmes, que leur relation est loin d'être évidente. Et puis, comme sait très bien le faire Dontnod, on a tout ce système de narration contextuelle qui fait que peu à peu, au fil de la partie, on va évidemment avoir des objectifs. Alors, j'aime pas le terme. Hein. On a des choses à faire dans cette aventure.
Ouais, c'est littéralement des objectifs.
Oui, mais bon, voilà. On vit des choses. On vit des choses.
Mais elles sont bien amenées, quoi.
Voilà, ça paraît plutôt logique. On a, voilà, tout ça se fait de façon, on va dire, organique. Et puis, on va surtout, on va picorer plein d'informations dans les décors, dans les lettres, dans des tas d'informations. Ça, ce que vous êtes très bien déjà Dontnod sur la première saison de Life is Strange, ça c'est vraiment une. Ils savent faire ça. Ils savent poser.
Avec
une heure,
je sais pas ce que vous avez pensé, mais il y avait presque un petit côté Gone Home aussi
la découverte,
dans la gestion des traces.
Et le rapport au temps surtout, parce qu'on est sur une temporalité. L'action se passe en une heure ou deux, en temps réel, mais on a un rapport au temps, au passé, à tout ce qui a pu. Les événements qui ont pu arriver, qui ont conduit à la situation que l'on va vivre. En tout cas, moi, ça m'a pris. Enfin, il y a un vrai truc. Alors, évidemment, Dontnod, ils ont, comme je disais, donc la narration contextuelle qui est importante. Il faut s'investir aussi dans ce genre de jeu. Hein. Quand on est joueur de jeux d'aventure, on n'est pas passif. Il faut avoir une curiosité d'aller creuser parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver dans ce jeu. On peut louper plein de choses si on fait un premier run et qu'on va vite. On peut le finir assez vite. Moi, j'ai tellement mordu à l'univers. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose avec ce petit garçon, donc Chris. Donc, son environnement est pas super joyeux. Je crois qu'on est à la veille de Noël ou à quelques jours de Noël.
En décembre, ouais.
On est voilà dans une unité de lieu. L'ambiance est pas terrible, mais lui, il s'échappe.
Il faut dire qu'on est dans un bled. Hein. C'est
pas grand chose.
Creek, je crois. C'est dans l'Oregon. Ouais. Tu sors.
Tout est enneigé.
C'est enneigé. Il y a deux maisons, quoi. C'est...
Et encore une fois, on va pas trop parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. Il faut faire cette expérience.
Voilà, on dirait qu'il n'a pas été montré.
Mais voilà, en tout cas, son père ne va pas très bien. Leur rapport est assez conflictuel. Ça se passe pas très bien. Il y a des choses qu'on va découvrir pendant ces deux heures de jeu. Mais lui, il a ce super pouvoir, ce gamin, c'est de s'enfuir dans sa réalité à lui, où il est un super héros, un Captain Spirit. Il s'échappe là-dedans. Il le prend très au sérieux, comme tous les petits garçons. Hein, quand on est dans ces univers, on joue avec ses jouets. Alors, sa chambre, elle est géniale. Sa chambre, les jouets, il y a beaucoup de choses autour de lui. Et tout est évidemment très bien écrit sur son rapport aux objets qui l'entourent, à son environnement, à ce jeu qu'il fait avec lui-même, avec son monde imaginaire. Et tout ça est pris très au sérieux, finalement. On a voilà, des personnages qui se créent autour de lui dans son imaginaire. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui est évidemment, ce qui est assez fort, sans en dire trop, c'est pour moi, c'est ce chaud et froid qui se crée hein, pendant ces deux heures entre le monde prosaïque et tristouille qui est là. physiquement autour de Chris, et lui, ce rêve, ce monde qu'il va créer avec des terreurs qui vont naître dans l'environnement de la maison, des défis qu'il va se donner comme ça, et on sent que voilà, y a une courbe en deux heures. Ce personnage, il nous dit beaucoup sur lui-même et sur son passé, et tout ça, on va le creuser aussi avec, encore une fois, avec la narration environnementale. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la relative liberté qui est laissée aux joueurs. Alors ça dure pas très longtemps, mais on n'est pas sur quelque chose de très linéaire, ce qu'on a souvent quand même dans le jeu d'aventure graphique, fais ça. Là, il y a une sorte de liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde ouvert. Je vais pas employer des grands mots comme ça.
Si, pour moi, c'est un monde ouvert, mais petit.
Monde ouvert. Mais voilà, on nous laisse, en gros, on sait à peu près ce qu'on a à faire. Hein, c'est assez clair, très vite. Alors on va devoir se faire son habit de super-héros, gagner un petit peu son statut de Captain Spirit. Et puis il y a différentes choses, aller jouer sur le portable de son père qui est bloqué avec un code. On a plusieurs choses comme ça à faire et le jeu nous laisse libre finalement de les faire dans le sens où on veut. On part à l'exploration. Moi, j'ai passé un temps fou à tout lire, à tout amasser parce que je voulais connaître cet univers qui m'a tout de suite marqué. Enfin, ce gamin, je trouve qu'il est super attachant. Il y a un truc tout de suite. On sent qu'il... Voilà, encore une fois, c'est ce contraste avec ce monde qu'il se crée et la dureté de l'environnement autour de lui où tout va pas très bien. Et je trouve qu'il est super attachant, ce gamin. Et donc, moi, je me suis attaché à lire le maximum de choses, à découvrir son environnement, comprendre aussi. En deux heures, on comprend pas mal de choses sur ce qui s'est passé avant et ce qui a pu conduire à la situation actuelle. Moi, je trouve que voilà, en deux heures, il se passe énormément de choses finalement. On s'investit beaucoup dans ce personnage. Et moi, je veux pas donner la fin, surtout pas. Faites-le. Encore une fois, ça coûte rien. Faites-le sur PC, sur PS4, sur Xbox One. Moi, les dernières minutes m'ont donné un frisson que j'ai pas vu venir. Vraiment, les dernières secondes, j'en dis pas plus, mais elles m'ont transporté. Il y a un truc que j'ai pas senti venir et ça m'a marqué. Voilà, il y a eu un truc où. Voilà, moi, ça a vraiment marché. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment, évidemment, ça me donne clairement envie d'en savoir plus sur la suite. Je pense j'imagine qu'on va sûrement recroiser Chris par la suite.
Sûr. Le message à la fin est clair.
Et ça donne vraiment envie. Enfin, je trouve que voilà.
Corentin.
Oui, moi je trouve que dans l'ensemble, cette expérience-là est vraiment réussie. Hein. Il y a vraiment un truc qui est très très concret, bien pensé de A à Z, petite expérience designée de A à Z pour rendre quelque chose de très bien. Alors après, je vais pas répéter tout ce que Patrick a dit et dans l'ensemble.
Je peux parler de la musique.
Soufiane Stevens quand même qui est à la mode en ce moment parce qu'il a été aussi. C'est lui qui faisait la BO de Call Me By Your Name qui a donc eu un succès critique considérable. Donc c'est une espèce de folk à la guitare.
C'est très, très proche de ce que proposait à l'époque la
Exactement. Ils ont un vrai savoir-faire aussi pour Marie. Ça a l'air tout bête comme ça, mais il faut savoir le faire. C'est retrouver les bonnes chansons au bon moment. Ouais.
C'était super important.
Et pour moi, c'est loin d'être anecdotique parce que ça contribue. Excuse-moi, je te redonne la parole. Mais ça contribue vraiment à construire une atmosphère. Et pour moi, avec ces jeux-là, et notamment là, je trouve qu'on flirte avec l'existentialisme parfois. Je trouve que Dontnod, il arrive parfois à donner des moments de silence où justement la musique a plus de temps. Et moi, j'ai posé la manette, mais volontairement. C'est-à-dire que c'est pas la manette qui m'est tombée des mains. C'est que j'ai dit, là, je me couche dans un lit, je fais du plafonnage. Ouais. Plafonnage égale regarder le plafond, écouter de la musique. Tu poses pas ta manette, mais tu laisses le temps. Et ça, dans le jeu vidéo, on le fait plus, ça, aujourd'hui. C'est très rare de laisser du temps comme ça. Et je trouve que là, ça contribue bien, en plus, à cette atmosphère assez, assez glaciale, malgré tout, sans jeu de mots, avec l'environnement de neige. Mais c'est assez glacial, quand même, l'atmosphère de ce passage. Et je trouve qu'il y a des moments comme ça où le temps a une épaisseur. Et on rejoint presque des questions, pour moi, existentielles, sur la pesanteur d'existence. Et je trouve que, voilà, combiner la musique à ces moments-là, ou le silence, il y a vraiment un jeu sensoriel qui, pour moi, fonctionne à plein, mais vraiment.
Non, bien sûr. Enfin, après, je vais dire que j'aime pas, parce que, à titre personnel, les phases où justement t'as rien
on
à
polarise,
faire.
Rappelle-toi, on polarise.
Ouais, oui. Non, mais après, je peux comprendre, disons, l'intérêt qu'on peut avoir pour ces phases-là, mais qui, à titre personnel, m'ennuyait profondément déjà dans Life is Strange.
Ah non.
Tu parles de moments musicaux.
Ouais.
Et moi, dans Life is Strange.
Hein. Parfois, il y a des silences.
Non, bien sûr. Mais tu parlais en l'occurrence, tu parlais de moments musicaux, parce que les moments où on attend ces musicaux dans Captain Spirit et dans Life is Strange, il y a ces moments où on se pose, notamment sur un banc, des machins comme ça.
Qui sont parfois intradiégétiques, parce que tu mets un vinyle en route.
Mais voilà, par exemple, moi, le premier exemple qui me vient en tête dans Life is Strange, c'est le moment où tu sors de la salle de classe, tu mets les écouteurs, tu marches jusqu'aux toilettes et tu as la musique qui se lance. Et là, moi, je trouve ça super.
Intradiégétique aussi, du coup.
Intradiégétique. et ce passage-là, moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu continues à te déplacer, tu avances lentement, t'es obligé, mais tu fais un truc, tu participes à. Tu n'es pas spectateur, tu es quand même à l'intérieur. T'as vraiment l'impression d'être la personne qui se déplace dans le lycée en écoutant la musique. Dans Captain Spirit, c'est. En plus, t'as le gros bouton genre B pour arrêter qui apparaît. T'as envie de.
Ouais, mais il apparaît si tu touches ta manette. Non, si tu touches à rien, il n'y a plus rien. Y a
ouais,
plus d'interface.
Je sais, mais. Enfin, bon, tu vois, c'est un peu genre. Bon, maintenant, fais une pause. Bah non, j'ai envie de savoir la suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est.
Après, ça dépend de ton degré de.
Et c'est pour ça que je dis, c'est à titre personnel. C'est des goûts. Ça m'intéresse pas trop à titre personnel. Alors que celui peut-être sur le dans la cabane dans l'arme m'a un peu plus touché peut-être, mais notamment celui dans le lit avec le CD. Bon, on a assez écouté la musique et j'étais content de voir d'ailleurs que la musique continuait de tourner alors que je pouvais continuer à enquêter.
Tu peux
regarder
continuer. Mais quand tu sais d'où vient la musique, quel choix musical, enfin il y a tout un contexte scénaristique qui fait qu'il y a une intensité particulière.
Et j'entends, c'est juste que je suis pas.
C'est pas une musique qui passe à la radio.
Et j'entends, c'est juste que je suis pas forcément public de contemplation tout ça. Alors moi quand même j'aimerais toucher aux quelques points négatifs. Il y en a quelques-uns malgré tout, malgré quand même la qualité générale. C'est le fait que bon bah c'est un jeu d'aventure et on clique sur tout pour trouver comment progresser dans les choses à faire. Alors il y a des choses qui sont assez évidentes, mais j'ai mis un temps fou à trouver la dernière partie du costume et ça m'énervait parce que j'avais le sentiment que ça me bloquait une partie de plein d'actions que je pouvais faire tant qu'il vous manque une partie du costume, grosso modo dans la tête du gamin vous n'avez pas de pouvoir techniquement, donc voilà, j'étais un peu je me sentais un peu frustré parce que je savais plus où aller et il manque peut-être cet aspect guidage un peu invisible qu'on pourrait avoir dans d'autres types de jeux et qui peut-être manque. Là, on est vraiment dans une boîte à jouets et on dit bah amuse-toi. Mais ouais, mais bon, j'aimerais bien que vous designiez un moyen pour que je m'ennuie pas non plus. Donc, une aide invisible. J'aurais voulu une aide invisible, tu vois.
Oui,
façon
les éclairages dans la partie.
Après, c'est bien aussi d'avoir un. C'est un grand mot, mais un petit challenge aussi, hein, de se croiser les méninges, ça fait longtemps.
Il y a bon et mauvais challenge. Faire du pixel, c'est l'équivalent du pixel hunting en 3D.
Ouais,
hein,
ouais, bien sûr, bah,
c'est pas très intéressant.
Mais c'est bien écrit. T'as toujours quelque chose à picorer dans les descriptions.
C'est plutôt bien écrit. Ça manque quand même parfois, à mon sens, un peu. En fait, il y a des moments de vraie belle subtilité dans le jeu, notamment quand on comprend en fait le revers de la médaille de la relation avec le papa. Et puis des moments où ça manque un peu de finesse. Il y a des moments où on comprend, ça doit être comme ça. Et là, le jeu te le renvoie dans un dialogue pas du tout subtil qui te fait j'espère que tu as bien compris que ça se passe comme ça. Oui, on a compris, je sais, bon, pas besoin de me le remettre machin, c'était bien, t'as tout gâché, tu vois, genre par moment j'étais un peu comme ça et du coup ça,
ouais, je comprends,
ça renvoie aussi à certains moments, mais c'est un vrai challenge qui est compliqué dans les jeux narratifs, c'est comment faire des vraies notes écrites qui sonnent juste. Je me mets dans l'univers, mais à quel moment t'écris ce genre de notes? Et jamais, en fait, tu vois ce que je veux dire.
C'est vrai qu'il y a une écriture très
C'est pareil pour les audiologues,
ça fonctionne
dans certains jeux.
Ça fonctionne,
bon, dans ensemble ça va, c'est pas catastrophique du tout et c'est souvent justifié, c'est des lettres de la famille qui envoient, qui s'inquiètent de la situation et tout ça.
Ouais.
Bon, dans l'ensemble ça va, mais bon, quand même il y a des moments où je fais mais jamais t'écrirais net comme ça, mais bref. voilà, et moi il y a le dernier point et je crois que c'est juste ça. Après ça franchement c'est un super jeu. Il y a une énigme, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis cette énigme. Tu en as parlé, je crois que je vais le dire parce que sinon les gens vont s'énerver dessus. Ne cherchez pas de logique au code PIN du papa, il y en a pas du tout. J'ai dû regarder sur internet pour avoir la solution et même les solutions ils font il y a pas de logique, cherchez pas, c'est comme ça et pas autrement. C'est personne n'aurait un code PIN pareil, mais c'est comme ça. Et du coup, n'hésitez pas, si vous êtes bloqué sur le code PIN du papa, allez chercher sur internet. Ne faites pas comme moi, ne passez pas des heures et des heures à lire tous les textes. Il y a aucune logique.
Parce que les autres codes sont logiques. Les choses qu'on voit.
Voilà,
avant,
les énigmes sont bien amenées, bien designées. Juste le code PIN. Cherchez-le.
Donc,
pas de problème.
Awesome Adventures of Captain Spirit. Moi, je rajouterais juste. Mais c'est finalement ce que vous avez dit. Je trouve que. Qu'ils ont vraiment amené, et en fait je m'attendais pas à ce qu'ils amènent quelque chose en termes de game design, en termes de level design. Je pensais vraiment avoir une sorte de super épisode de Life is Strange, annonciateur de Life is Strange 2, enfin un truc, on avait vu la bande annonce, un enfant et tout ça. Je trouvais que déjà l'univers était très compatible avec Dontnod et que je savais qu'ils allaient être bons, enfin mais je m'attendais pas finalement à trouver une variation finalement de gameplay aussi importante, parce que pour moi l'aspect capital c'est le monde ouvert. Il y a eu un petit échange, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment pour moi ce que j'ai noté, c'est que c'est un monde ouvert, c'est un mini monde ouvert, comme tu l'as dit, mais c'est de réinclure la narration au sein d'un monde ouvert avec des bonnes idées, notamment les interruptions. Les interruptions c'est quoi? C'est on est en train de faire quelque chose, il y a quelque chose qui se se passe, qui est un téléphone qui sonne, qui est dès le début le père qui appelle. Non mais c'est des petites interruptions. Je veux dire, dans un jeu narratif,
ça arrive deux fois dans le truc quand même.
Oui, mais c'est des idées comme ça qui me font dire que peut-être Life is Strange va aller chercher aussi pas seulement une belle histoire, pas seulement des beaux environnements, une belle écriture, mais va aussi aller chercher dans les mécaniques.
Pour moi, la mécanique la plus intéressante, c'est il y a cette gâchette qu'on peut appuyer pour déclencher l'imagination, grosso modo. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça rajoute un peu de gameplay dans la narration, et ça, c'est
exactement
chouette.
Et finalement aussi, ce qu'apporte cet aspect monde ouvert par rapport à une structure narrative habituelle. Et c'est là aussi où je suis un peu en désaccord avec toi, Corentin, parce que autant je comprends que dans Life is Strange, les aspects, je m'assois sur un banc et tout ça, d'accord, on va arriver à la fin de l'épisode. je comprends, même si moi j'avais fait, je m'étais assis sur un banc,
les mecs, on est de la génération MTV quoi, où les films avaient parfois segment musical super marqué, donc
mais là finalement je trouve que cet aspect monde ouvert où l'important n'est pas tant d'arriver au bout d'un scénario, mais de profiter de l'environnement, c'est un truc de découverte à son rythme et tout ça. Et finalement, ce monde ouvert, moi, m'a détaché un petit peu de la contrainte du temps. Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, Patrick, sur l'épaisseur du temps, où finalement, on arrive à la retrouver parce que j'ai beaucoup moins senti dans cet épisode, mais peut-être parce que c'est un one shot, peut-être parce que c'est
C'est très dense, très concentré.
J'ai moins senti l'appel de la fin.
Un détail important, c'est quand tu finis une première fois, tu reviens. En fait, tu peux revenir à ta. Tu peux continuer. En fait, reviens en gros à ta dernière sauvegarde. Enfin, c'est pas une sauvegarde, mais tu reviens peu avant la fin. Donc, ça te laisse la liberté d'aller remplir d'autres objectifs.
Et ça, c'est aussi un petit défaut, c'est que on peut déclencher la fin par inadvertance. Ça m'a un peu.
Tu continues en sachant que tu joues avec le temps. De toute façon, c'est aussi une thématique depuis les débuts de Life is Strange, c'est de jouer aussi avec le temps.
C'est le mini sentiment qu'avait Erwan pour Detroit, j'avais le sentiment d'avoir raté mon truc.
Là-dessus, Corentin.
C'est quand même le mini sentiment que j'ai fait. Ah, mais non, je voulais pas déclencher ça.
Ce qui est bien, c'est qu'on
laisse la porte
fermée. Mais tu reviens. Tu reviens pas. Si t'as pas envie, tu reviens.
C'est pour ça que c'est beaucoup moins grave. Non, mais c'est pour ça que c'est beaucoup moins grave. On peut recommencer immédiatement. Et c'est aussi là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi, Erwan. On est moins appelé à finir le jeu, même s'il y a cette liste de choses à faire que tu as envie de finir quand même. C'est pour ça que je suis pas du tout critique sur les aspects contemplatifs. C'est que, un, ils sont complètement facultatifs, on n'est pas obligé de les faire. Et de deux, c'est mon goût à moi personnel. Je suis pas très fan de ces moments-là, mais je suis très content que des gens puissent aimer.
T'as envie d'en savoir plus dans cet univers.
Les moments contemplatifs, il se passe pas énormément de choses en termes d'argent.
Je crois que tu parlais des objectifs plus ou moins.
Non, tu parles vraiment genre tu t'assois sur le lit, tu regardes le plafond.
Ah oui, non, c'est vraiment profiter de l'univers du jeu, en fait.
Et ceux qui trouvent ça beau,
c'est tellement à contre-courant des tendances générales actuelles. Je trouve que se laisser le temps.
Et c'est pour moi, c'est pas un défaut de le mettre.
Les choix musicaux sont quand même.
Non, ils sont magnifiques, je suis d'accord. Et ceux qui trouvent ça bien le font, et ceux qui trouvent pas ça bien comme moi le font pas, et c'est pas un drame, quoi. Donc il y a aucun souci. Moi, je suis pas du tout sévère sur ces trucs-là. Ouais.
C'est intéressant.
Et quand même, à arriver. Ils sont forts sur la narration du quotidien. Je trouve que c'est ça, finalement.
Mais un quotidien qui se transfigure aussi.
Il se transfigure, mais. Sincèrement, il y a un truc.
Il y a une tristesse, il y a aussi une mélancolie.
Il y avait un truc que j'avais pas retrouvé depuis Life is Strange.
Ouais, il y a une tristesse, mais je pense qu'il y a une vraie mélancolie dans ce jeu.
Non, mais une question de rythme, une question de personnages concrets, où t'as l'impression que c'est des vrais gens, que c'est des vrais trucs.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode 1 et 4 de Life is Strange. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment fait cringer, mais c'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais en tout cas, j'avais pas ressenti.
Faites-le.
Oui, en plus, gratuit, ce serait bête de passer à côté.
Moi, ce qui est fort, c'est une sorte de continuité d'émotion, et qui est comme une signature émotionnelle d'un studio. Et pour le coup, c'est assez balèze.
Ah, bien sûr.
Et puis l'intensité, c'est vrai que c'est assez court.
Ouais. C'est condensé.
Ce qu'on a moins, par exemple, dans le jeu qu'avait fait Deck Nine, donc le préquel que je suis en train de faire, qui est plus long, plus étiré, donc on n'a pas les mêmes ressentis. Puis au fond, on sait que c'est pas le studio qui. Enfin voilà, qui est au commun, on le sait, ça, en jouant. Et c'est pas mal, hein, mais. Là, c'est ça qu'il y a une densité. Et c'est vrai que le format est intéressant. Enfin, je trouve que le format, comme ça, en deux heures, ou trois, ou enfin, ce que
ça tu. Ça dépend ce qu'on y fait.
Ça dépend de ce qu'on, voilà, ce qu'on veut y faire.
Si, comme Patrick, vous restez une heure sur le lit, oui, ça fait dans trois
heures. Ça C'est vrai. C'est vrai que ça peut jouer.
Allez, on va terminer. Donc, oui, bah oui, j'allais. Le prix, non, c'est zéro.
Gratuit, c'est
zéro.
Sur PC, et console, PS4, Xbox One.
Et c'est une très bonne idée. On va terminer cette émission avec l'OVNI du moment, Cultist Simulator. Alors franchement, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité. Alors déjà, j'ai hésité à y jouer. Il m'a fait peur longtemps. Je l'avais sur mon bureau d'ordinateur. J'avais vu les vidéos, j'avais vu quelques gens en parler et il me faisait peur. Il me faisait très envie. Et après, j'ai commencé à y jouer. Et là, j'ai hésité à en parler. Donc j'ai recommencé à y jouer. Et là, je me suis dit non, je ne peux pas en parler. Et en fait, il faut que j'en parle. C'est Cultist Simulator. Alors Cultist Simulator, c'est un jeu qui a été kickstarté en septembre 2017. Alors point notable, il faut le noter. La livraison prévue était en mai 2018. Il a été livré en juin 2018. Donc c'est pour ah le ouais. coup on est quand même voire même en mai 2018. Je me demande même s'il n'était pas sorti en fin mai 2018. Il a été kickstarté à plus de 200%. Il a récolté 80 000 livres et il a été surtout kickstarté sur le nom de son créateur. Son créateur, c'est Alexis Kennedy qui a créé auparavant Fallen London et on en avait parlé dans Silence on joue Sunless Sea qui était une sorte de roguelike narratif à base de bateaux et de dans la nuit. Et tout ça qui était très impressionnant, mais un petit peu obscur, enfin en termes de narration.
Et surtout, Sunless Sea, hein, ça l'est.
Voilà, et surtout, et tout comme Cultist Simulator, il était non traduit, hein, donc c'était vraiment de. Et c'est de l'anglais littéraire, c'est. Voilà, donc c'est déjà le premier avertissement sur Cultist Simulator, parce que peut-être que le reste du discours vous fera très envie, mais c'est de l'anglais,
ça
et
peut
c'est,
jouer,
de, la,
hein,
c'est de la narration, et ça peut jouer.
Je sais que ça rebute pas mal de gens.
Ouais. Voilà, donc je préfère le préciser. Peut-être qu'il sera traduit un jour, j'en sais rien. D'autant que les premières ventes sont plutôt sont plutôt encourageantes. Hein. Ils tablaient sur 30 000, ils en sont à 50 000, ce qui est pour un jeu indé, tout ça, c'est loin d'être négligeable. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est Cultist Simulator ?
Bonne chance.
Voilà, bonne chance. alors déjà, ça ressemble à un TCG, hein, donc un jeu de cartes à collectionner, parce qu'on a des cartes, on a une table, on a des cartes et il y a des choses à faire et on déplace des cartes et on les met des cartes à des endroits. Et tout ça, donc ça, et il y a des nouvelles cartes qui apparaissent, donc ça ressemble vraiment à ça, mais c'est pas ça. Alors voilà, il faut dire que la première partie de Cultist Simulator que j'ai fait, je l'ai joué un peu à la façon TCG où je testais les combinaisons qui pouvaient marcher et tout ça. Et j'ai joué un petit peu, hein, j'ai joué un peu plus une heure, deux heures avant de me rendre compte que je ne comprenais absolument rien à ce que je faisais. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai recommencé. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que bah non, c'était pas un jeu de cartes à collectionner, même si il y avait une table et des cartes, c'est un jeu narratif. C'était, en fait, ça raconte une histoire. On commence et on doit juste trouver un métier. On déplace juste une carte boulot. Donc, il faut être, je crois, pas ambulancier, mais gardien dans un hôpital de nuit. Et on le déplace dans la case job. Donc, on prend sa carte boulot, on déplace dans sa carte job. Et là, commence un timer. Donc, en fait, l'endroit des boulots, c'est un rond. Et donc, il y a un timer qui descend tout autour. Et quand on arrive au bout, eh ben on a gagné de l'argent et on se fait virer. Voilà, ça commence comme ça, donc on a perdu notre travail et en fait, on va commencer à essayer. En tout cas, c'est ce que nous induit le jeu à vouloir monter une sorte de culte. De secte un peu de magie noire, un peu de mysticisme et de ce genre de choses. Et donc voilà comment est-ce qu'on monte une secte en partant de rien, hein. Il faut commencer par se renseigner, il faut commencer par rencontrer des gens, aller trouver une librairie, acheter des livres, étudier des livres,
avoir du savoir. C'est une secte de magie noire, donc il faut
faire attention à pas trop se faire repérer, parler en public mais avec le risque de se faire repérer et ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que Cultist Simulator ? Je reviens à cette première question parce qu'on sait toujours pas ce que c'est. Alors oui, c'est un jeu narratif, mais c'est aussi un roguelike, hein, parce que on peut mourir. Pourquoi ? Parce que on peut mourir parce qu'on n'a plus d'argent, par exemple. Parce que, en fait, la case boulot, il faut continuer à la remplir. Hein. C'est tous les jours, parce que chaque jour qui passe, parce que très vite, il y a un deuxième sablier, un deuxième rond qui diminue tout le temps. C'est le temps.
Ouais.
Le temps, et chaque jour qui passe, il faut de l'argent. Il faut un argent par jour pour subvenir à ses besoins. Et donc, en fait, il va falloir aller au travail. Sachant qu'au travail, ça fatigue quand même. Donc, on va gagner peut-être un petit peu plus d'argent que nos besoins quotidiens, mais cet argent, on en aura aussi besoin pour acheter des livres. Mais aussi, si on va au travail tous les jours et si on s'implique trop dans le travail, finalement, on va peut-être perdre toute envie d'aller ailleurs. Et finalement, le jeu va peut-être se terminer parce qu'on aura trop allé, on sera trop allé dans un travail chiant et qui va nous faire perdre notre passion et le cœur de notre vie. Alors oui, c'est un rogue, mais c'est aussi un 4X. En tout cas, c'est pas vraiment un 4X parce qu'il n'y a pas d'extermination, d'expansion et tout ça, mais il y a cette mécanique de 4X parce que ces timers sur les boîtes, en fait, ça va se multiplier et il va y avoir le travail, il va y avoir le temps qui passe, il va y avoir le monde des rêves dans lequel on va aller pouvoir explorer des univers, ou alors juste se reposer sa santé juste en passant une bonne nuit. Il va y avoir aussi des événements, il va y avoir les études, donc on va pouvoir étudier des trucs, étudier un peu en absolu, étudier sa passion, étudier sa raison, étudier des livres qu'on aura achetés chez un libraire, qu'on aura trouvé la librairie, parce qu'il va falloir aussi étudier le chemin vers la librairie. Et puis il va y avoir d'autres événements, on va pouvoir parler à des gens, ça va être un autre timer. Donc,
mais alors, c'est quoi, par exemple, une personne dans le jeu, c'est une autre carte qui apparaît ?
C'est une autre carte qui apparaît. Alors les personnes, il va y avoir des followers, ça marche, hein. Donc on fait une secte, on va commencer par avoir des followers qui vont nous accompagner pour explorer des lieux aussi, et il va y avoir aussi des ennemis, enfin des gens qui vont enquêter, des hunters qui seront un peu à chasser le surnaturel et donc chasser un peu nos agissements, et si on fait pas gaffe, le hunter va nous trouver. Et donc en fait, ça c'est assez marrant parce que si en fonction de ces activités, on va avoir des cartes malus qui vont arriver. Alors ça, je vais aborder un point, je pense que je vais pouvoir aborder que 10% de ce que j'ai découvert.
Mais ça a l'air vraiment bizarre. Hein,
dans ces cartes qui vont finir par apparaître, il y a énormément de cartes temporaires qui vont avoir leur propre timer. C'est-à-dire ces cartes.
Comment, j'essaie de visualiser.
C'est une table avec des cartes que tu disposes librement, que tu vas utiliser sur des timers, en fait, avec des activités. Et en fait, des cartes vont apparaître, les cartes vont elles-mêmes avoir des timers. Elles seront soit utilisées, en 120 secondes, comme l'érudition, par exemple. Si on va. On va pouvoir utiliser deux éruditions pour augmenter ses capacités. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est aussi un jeu de rôle.
Ah oui.
C'est un RPG, c'est-à-dire qu'on a des stats des niveaux de vie, parce qu'on va pouvoir tomber malade et il vaut mieux avoir de la santé, sinon on meurt. Il y a la raison, il y a la passion qui sont aussi des statistiques, parce qu'on va pouvoir par exemple utiliser sa raison pour gagner plus d'argent à son travail, ce qui va nous permettre de faire autre chose, genre d'acheter des livres. Et on va gagner comme ça des caractéristiques de l'argent aussi.
D'ailleurs, je sais pas si tu l'as précisé, mais on a une idée un peu du contexte scénaristique dans lequel on se trouve. C'est quelle époque, quel lieu, c'est dit ou pas, ou est-ce que ça n'a aucune importance?
Intuitivement, c'est victorien.
C'est victorien.
Ouais, voilà, on est un peu sur du classique ou victorien ou Lovecraftien. Enfin, voilà, dans c'est du très 19e siècle en fait. Hein,
quand tu en parles, c'est étonnant, c'est la différence entre l'écran qui est plutôt austère pour moi et toi le film que tu te fais quand tu en parles. C'est très cérébral. Enfin, tu te crées tout
incroyable.
Un
incroyable. Alors, je reviens sur l'aspect 4X. L'aspect 4X, c'est quoi? Enfin, c'est tous les civilisations. Sont basés sur quoi ? C'est basé sur le One More Turn. Le One More Turn, il est basé sur quoi dans les 4X ? C'est Sid Meier qui l'a déjà expliqué. C'est que, grosso modo, t'as énormément de choses qui avancent en parallèle et dans One More Turn, il va y avoir un truc qui va se débloquer. Soit une nouvelle merveille qui va arriver, soit je vais découvrir une nouvelle discipline scientifique, soit j'ai un nouveau bâtiment qui va construire, soit j'ai des colons qui vont arriver là où je les ai envoyés. Et c'est ça qui marche dans le 4X. Et finalement, dans Cultist Simulator, c'est ça qui marche. On a tellement de timers comme ça qui vont avancer à des vitesses différentes et tout ça. Alors, je précise qu'on peut faire pause. D'ailleurs, on passe son temps à faire pause dans le jeu parce qu'autrement, on ne pourrait rien lire, évidemment.
Parce que c'est en temps réel, c'est pas des tours.
Non, c'est pas des tours, justement. Ces timers, il faut démettre pause pour que ça avance. Et dès qu'il y en a un qui va arriver, on va mettre pause et on va voir les nouvelles cartes, les nouveaux désavantages qu'on va avoir.
C'est pause comme dans un tycoon. Tu mets pause, tu vois tout ce que
t'as. Par espace, à volonté. Donc, RPG, c'est une simulation. d'organisation de secte finalement, ou de culte de magie obscure. Voilà, je parlais de ces cartes qui apparaissent qu'on va utiliser. Il y a aussi les cartes négatives. Par exemple, on va pouvoir avoir une carte mysticisme ou une carte notoriété. Notoriété, ça c'est très mauvais. Et donc notoriété, elle va être présente pendant 250 secondes. Donc pendant 250 secondes, si on a encore la notoriété, quand il va y avoir un hunter qui va s'intéresser à nous, et ben ça va alimenter son truc. Et finalement, le détective, ou ça peut être un inspecteur de Scotland Yard par exemple, et ben en fait, il va y avoir des présomptions. Et donc, si la carte présomption arrive, elle dure 550 secondes. Donc pendant 550 secondes, il va y avoir cette présomption qui va nous une sorte d'épée de Damoclès comme ça. Et donc, se créer sur cette table cette table et narrative et roguelike et 4X et tout ça, se créer un univers en fait, qui est complètement fou, qui devient cérébral, et on se crée non seulement, on suit une sorte de narration qui est complètement émergente, mais dans notre tête,
oui,
se passe quelque chose de
parti très loin,
complètement fou.
En fait, tu le racontes et je me disais, mais comment on pourrait en effet définir ce genre de jeu là et pour moi, en fait, plus tu en parles, plus j'ai l'impression, en fait, c'est un jeu de gestion, mais d'une personne uniquement. Tu vois ce que je veux dire, avec tout ce qui l'entoure, tout ce qui et du coup, voilà, c'est un jeu de gestion d'une seule personne. Tu gères pas une ville, tu gères pas un pays, tu gères pas une civilisation, tu gères un mec.
Est-ce qu'il y a une finalité, est-ce qu'il y a un objectif?
Ah oui, il y a différentes fins peut-être.
Alors, il y a différentes fins.
Des mauvaises, j'imagine.
Il y a des mauvaises. Moi, je n'ai eu que des mauvaises pour l'instant, donc je ne peux pas.
D'accord. Mais on peut parvenir à ses fins, d'une façon ou d'une autre.
A priori, oui.
Arriver à
créer son culte, à faire des découvertes. On débloque des mondes des rêves. On trouve le chemin des bois. on peut revisiter si on trouve le chemin des bois.
On avait dit qu'on devait te débrancher un moment. On devait faire signe.
C'est complètement taré.
Tu sais à quoi ça me fait penser aussi? Ça me fait penser à Reigns, un petit peu, sur l'idée avec les cartes comme ça, on fait gauche-droite, puis on rajoute la carte entrée du labyrinthe ou genre de truc.
Et ça m'a fait penser à Reigns là-dessus, sur cette prédomination des cartes. Ouais. Et en fait, ce détournement des cartes. Et ça détourne les cartes pour aller chercher ailleurs. Mais là, ça mélange tellement de choses. Le seul truc, c'est que c'est pas graphique. C'est juste des cartes sur une table. Mais finalement, on se retrouve, ça rajoute l'aspect Lovecraftien.
Ouais, RPG, pen and paper presque.
Ouais, voilà, c'est ça, où on joue avec des éléments. Et c'est hypnotique, vertigineux. Ça crée quelque chose. Le gros désavantage, c'est, franchement, il serait traduit en français, je vous dirais, vous y suivre, ce serait, il y aurait aucune raison de pas y jouer. Là c'est de l'anglais littéraire. C'est vrai qu'on a tendance. Mais finalement, arrivent des moments où on passe des éléments de scénario parce que ça se passe aussi dans sa tête.
Il y a une communauté un peu bouillonnante autour du jeu.
Il y a des wikis qui sont créés.
Ce que je me dis, il y aura peut-être des mods, des mecs un peu motivés qui font leur petite traduction dans leur coin. Ça peut peut-être arriver.
Ce serait pas mal. Ouais. Peut-être je sais pas. Je sais que sur Slay the Spire, par exemple, il y a toute la communauté de mods de traduction qui est aussi communautaire, mais qui a une communauté un peu plus importante. Ouais, donc là, je sais pas, on est évidemment sur un truc ultra de niche, mais en même temps sur un truc tellement novateur qui est assez incroyable. Après, traduire un truc comme ça, ça a l'air, c'est l'Everest.
T'as piqué ma curiosité, en tout cas, ouais. Ça me donne envie d'y jouer.
En tout cas, regardez, jetez-y un œil si je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent comme... PC uniquement, à ma connaissance, ouais. Voilà, Culty Simulator, c'est 20€ sur les GOG, Steam, ce que vous voulez. Voilà, désolé pour le tunnel.
Non, c'était intéressant parce que quand on
tombe. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une nouvelle manière de raconter des histoires.
Bien sûr.
C'est là où c'est
qui renvoie un peu à la tradition textuelle de l'époque où on avait quelques textes à l'écran et on se faisait tout un film. On imaginait aussi sa propre aventure en tapant des phrases, des mots. Ça rejoint aussi ça. C'est-à-dire qu'on a beau avoir aujourd'hui des graphismes photoréalistes à l'écran, quand je vois comment tu parles avec une fièvre particulière de ce jeu, tu sens que voilà, le travail du cerveau du joueur, de l'esprit, l'imaginaire, c'est toujours aussi puissant aujourd'hui.
C'est assez rigolo, c'est que Alexis Kennedy, il y a un post-mortem qui a été fait, qui a été relayé notamment sur Rock Paper Shotgun, où il raconte, c'est la productrice, je crois, qui raconte, parce que lui est scénariste, game designer, machin, il a pratiquement tout fait. Et la productrice raconte, mais à un moment, on lui a dit, il faut que tu aies un tutoriel dans ton jeu. Quoi. et lui, non. Et en fait, la première partie, tu lui en veux. Et la deuxième partie, tu le comprends.
T'es reconnaissant.
En fait, t'es reconnaissant, en fait. Et c'est très, 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 très surprenant. Mmh. Même encore moi, aujourd'hui, j'aurais encore besoin d'un tutoriel. Il y a plein de choses que j'ai pas saisies. Mais ça fait partie du truc, c'est expérimenter, découvrir. C'est l'essence de ce jeu-là. Voilà, bref. j'arrête là. Cutfish Simulator, voilà, sur PC. Merci en tout cas. C'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo, pour cette avant-dernière émission de la saison, de la 11e saison de Silence on Joue. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière de la saison, toujours ici dans les locaux décroissants, mais avant tout, avant de finir, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Bah, je regarde des gens jouer.
Ah mais oui.
Simplement. Là il y a donc ça arrive deux fois l'an, hein. Il y a la SGDQ 2018 qui est en cours à l'heure où on enregistre. Si le podcast arrive à l'heure, il vous reste peut-être deux ou trois jours de jeux à regarder sur Twitch. Donc je rappelle, hein, la SGDQ, il s'agit des Summer Games Done Quick. C'est la version estivale des Awesome Games Done Quick qui ont lieu, eux, en janvier. Et il s'agit d'un marathon caritatif de speedrunner. Donc plein de gens qui finissent les jeux très rapidement. C'est indiqué dans le titre. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Et ils le finissent très, 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 très vite. Des jeux en montrant des glitches, des strats. Il y a différents événements, comme il y a des races. Il y a des formats un peu différents. Par exemple, je sais plus quelle année, mais il y a dû avoir une run en aveugle de Ocarina of Time, en aveugle littéral, le mec se bandait les yeux, il finit Ocarina of Time à l'aveugle. Ah ouais. Il me semble que ça a été Awesome Games Done Quick, mais en tout cas ça existe, c'est sûr. Mais voilà, il y a plein de formats différents qui sont tentés. Il y a des jeux qu'on connaît pas forcément, il y a des jeux qu'on savait pas que les gens speedrunnaient dessus. Donc c'est moi j'aime bien regarder la SGDQ même après l'événement. Alors il y a tout le côté en direct qui est sympa, c'est comme le Téléthon, on regarde ça.
Il y a beaucoup de replay, ouais.
Il y a beaucoup de replay après, mais même quand on regarde ça, tout le monde commente sur le chat, tout le monde est en feu. En plus, pour ceux qui parlent pas anglais ou qui comprennent pas bien l'anglais, il y a un Rustream français qui existe, donc des mecs
et
qui récupèrent le flux.
Et ça, c'est le plus incroyable dans ces AGDQ. Moi, je trouve, c'est les Rustream et les commentateurs français. On tombe toujours sur des mecs qui sont capables de commenter avec une érudition absolument incroyable ce qu'on est en train de voir. Et finalement, autant les speedruns, je suis pas preneur, mais les speedruns commentés comme ça, j'adore.
C'est toujours le plus intéressant. Alors après, bon, il y a à boire et à manger dans les commentaires. Qu'ils soient anglais ou français d'ailleurs, ouais. C'est pas toujours bon, mais la plupart du temps, enfin, en tout cas quand c'est bien fait, y compris sur le stream français, ils potassent avant quand même les différents glitches, ils étudient la run qui va être faite, parce qu'en fait il y a les formats et les routes, il n'y en a pas des milliards, donc une fois que tu connais les routes, tu es capable de dire, ah oui, à cet endroit là il va faire un wrong warp, ah oui, à ce moment là il va faire un back long jump glitché, ou ce genre de trucs, tu vois. Donc il y a plein de... et ils expliquent les glitches, et c'est super intéressant, et surtout ils nous font de l'anticipation, ah vous allez voir, dans 40 minutes il y aura un glitch de ouf et tout, et ça c'est vraiment passionnant à regarder. Donc c'est un événement caritatif. Et donc vous êtes incité à donner, il y a des petits concours qui sont faits, genre ah dans quelle langue on va jouer Ocarina of Time, en français, en allemand, en machin, et si tu donnes de l'argent, tu décides pour à qui tu donnes l'argent, et la langue qui a donné le plus d'argent remporte la timbale, et donc tu joues en anglais. À la GDQ en janvier, ils ont nommé le cheval dans Zelda Rochefort, en hommage à Jean Rochefort, parce que la communauté française a poussé pour que ce soit Jean Rochefort qui soit le nom du cheval. Voilà, ça rapporte de l'argent tout ça, parce que mine de rien, la GDQ l'année dernière, c'était 1,8 million de dollars pour Cancer Foundation, la Fondation contre le cancer américaine. La SGDQ, c'est Reporters sans frontières, c'est l'AGDQ, pardon, et donc qui a eu lieu en janvier. Et là, par contre, l'AGDQ, c'était 2,3 millions de dollars, donc c'est pas rien, c'est des petites sommes. Donc là, j'ai pas regardé où ils en étaient, je pourrais regarder d'ici la fin, le temps que Patrick dise ce qu'il fait. Mais en tout cas, si je peux vous recommander une run, alors j'ai pas trop suivi cette année, je vais tout regarder en replay, je vais tout rattraper, mais j'ai vu celle de Majora's Mask 3D. Alors déjà, les runs de Majora's Mask sur N64 sont folle, surtout quand vous connaissez le jeu, parce que les mecs font n'importe quoi. La run est assez longue, elle dure 1h20, mais alors
un jeu quand même en plus.
C'est vraiment passionnant. Regardez comment ils font, parce que c'est des glitches hallucinants. En plus, ils ont découvert il y a quelques années des encore plus dingues. Et le 3D, il dure 1h20, 1h30 aussi, mais c'est totalement différent. C'est d'autres glitches et tout, et c'est vraiment
3DS,
super intéressant. Ouais, 3DS, ouais. Et du coup, ils ont corrigé une partie des bugs qu'ils connaissaient de la version Nintendo 64, et ils en ont découvert d'autres, mais des encore plus pétés. Il y en a une où ils cassent complètement le système de temps du jeu. Le jeu pense qu'on est le quatrième jour, il pète un câble, alors qu'il n'y a pas de 4 jours dans Majora's Mask, il n'y a que 3 jours. Et c'est vraiment passionnant à regarder, donc je vous encourage, même si vous avez raté l'événement, même si vous n'êtes pas là en direct avec la hype, c'est un des mêmes même. vous pouvez mater ça en replay, c'est vraiment chouette, je le recommande, c'est sur Twitch et c'est jusqu'à dimanche après-midi. Voilà.
Merci Corentin. Patrick.
Eh ben, alors moi, quand je ne joue pas aux jeux vidéo, je lis des ouvrages sur le jeu vidéo. Et en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui a pas mal fait parler de lui il y a quelques semaines, hein, lorsqu'il est sorti. Ça s'appelle Du sang, des larmes et des pixels de Jason Schreier.
J'ai très envie de le lire.
C'est passionnant. Mm. C'est publié chez Mana Books en France, donc en version traduite. C'est passionnant. Là, j'en suis à Diablo 3. Mm. Lancement très compliqué de Diablo 3. Il est passionnant, ce bouquin, parce qu'en fait, donc Schreier s'est rapproché des studios, des développeurs qui ont connu, bah, comme c'est souvent le cas, hein, des genèses compliquées. Et lui, la force de ce bouquin, c'est qu'il s'est vraiment rapproché des équipes et qu'il a, voilà, il a pu avoir des témoignages.
C'est finalement très proche du tir groupé Canard PC Mediapart sur les conditions de travail dans les studios de jeux vidéo.
Sur les bouclages difficiles. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que, bah, il aborde des gros sujets, hein, Uncharted 4, Diablo 3, je vois qu'il y a du Halo Wars plus tard. Mais il y a aussi des titres plus à notre échelle, Stardew Valley par exemple, ça c'est intéressant, ce qui se penche aussi sur des productions.
Seul,
voilà. Donc d'autres
c'est auto-crunché.
Et exactement, d'autres problématiques de temporalité, de pression, mais toujours la pression. En tout cas, c'est fascinant de voir la fabrication de ces jeux. Nous, on joue peinard dans notre canapé à Uncharted 4, on prend notre pied comme ça, mais quand voilà, on réalise comme ça, quand c'est écrit dans le marbre, donc. Quelle manière parfois ça se boucle avec
parfois. Ah, il y a des bugs, mais quel feignasse ce développeur.
Voilà, en tout cas, c'est fascinant et c'est important. J'ai envie de dire, c'est important de voir les coulisses
aussi.
Derrière
les jeux. Ouais.
Et bah, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Ça, c'est pas toujours le cas. Là, c'est plutôt très bien traduit. Donc voilà, je le recommande. Hein. Du sang, des larmes et des pixels chez Mana Books de Jason Schreier. C'est vraiment très intéressant.
Voilà, j'ai le chiffre. Donc Games Done Quick en sont à 730 000 dollars récoltés. On est jeudi, donc d'ici dimanche, ils vont taper dans le 1,5 million, je pense, à vue de nez. Et donc, c'est pour Médecins Sans Frontières, voilà.
Vous voulez que je vous parle de l'univers ?
Ah oui, 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 oui.
Alors non, j'ai fini. Alors aujourd'hui, jeudi, je vais publier 3 pages dans Libération. Vous pouvez lire en ligne sur un autre livre dont j'avais parlé ici, hein, sur tout ce que nous ne savons pas. Mais en fait, pour continuer dans ces questionnements sur l'univers, je viens de finir L'insoutenable gravité de l'univers de Gabriel Chardin, qui est un chercheur du CNRS, qui fait tout un bilan de la gravitation, de cette force de gravitation. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, dans le temps. On part d'Aristote, on passe par Copernic, Galilée, Kepler, enfin tout
Newton,
tout
ce, j'imagine,
tout,
aussi,
Newton,
hein,
évidemment, hein, donc tout cette partie du 14e au 17e siècle, très très important, évidemment Einstein, évidemment la physique quantique, évidemment tout le Stephen Hawking, les trous noirs, les machins, c'est passionnant, on comprend un mot sur deux.
Mais alors Erwan, qu'est-ce que la gravitation?
Voilà, donc on comprend, mais alors c'est disons, c'est un ouvrage qui, au minimum, demande à avoir déjà lu des ouvrages de vulgarisation. C'est-à-dire, d'accord, c'est un peu le niveau 2 de la vulgarisation, ah, oui, minimum. C'est-à-dire, il faut déjà avoir lu Stephen Hawking, la brève histoire du temps, ou d'autres livres très bien de vulgarisation, mais avoir vu Cosmos, qu'on peut regarder sur Netflix. Enfin, avoir déjà des bonnes notions de la relativité générale et de la cosmologie. Même là, on comprend pas. Moi, il y a des, j'ai tweeté des captures d'écran de ce bouquin sur parce qu'il y a des moments où j'en rigolais tellement je comprenais que dalle quand il est à expliquer le principe du rayonnement d'Hawking des trous noirs par exemple, qui est lié à une dissociation quantique entre particules antiparticules, voilà, et qu'il y en a une qui est vierge et tout ça, alors qu'on pensait que les trous noirs pouvaient pas rayonner, hein, forcément, par principe. Bref, il y a des passages comme ça où tu comprends rien, mais pourquoi ce livre est rigolo? Pourquoi il est rigolo?
Parce qu'il faut un moment que ça soit rigolo, quand même.
Mais oui, parce que, il est construit très bizarrement, parce qu'on passe par des moments de doute, hein, sur nos capacités à comprendre de quoi il parle. Mais on arrive à la toute fin à l'univers de Dirac Milne. Alors, qu'est-ce que l'univers de Dirac Milne? Eh bien, c'est la théorie même de Gabriel Chardin, donc de ce chercheur du CNRS qui, avec son étudiant, propose un modèle cosmologique, rien que ça.
Unifié, tu veux dire?
Voilà, unifié et qui expliquerait notamment l'énergie noire et la matière noire. Hein, si vous le savez, si on regarde l'univers, la matière noire et l'énergie noire, c'est 95%
c'est partout,
de l'univers.
Ouais, c'est le problème, c'est qu'on peut pas l'observer.
On peut pas l'observer, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. La matière noire, c'est ce qui empêche, grosso modo,
c'est
ce qui empêche les étoiles de se faire gicler parce que les galaxies tournent trop vite. Mmh. Et normalement, quand vous faites tourner des petits pois dans une assiette, les petits pois ils giclent, et ben normalement, les étoiles elles gicleraient. Ouais. Donc en fait, il doit y avoir une matière noire, une centre de gravité. L'énergie noire, c'est parce que que en fait à la place de
que l'univers se crunch sur lui-même, il grossit.
Que l'expansion se ralentisse, l'expansion de l'univers accélère. Donc d'où vient cette énergie? C'est l'énergie noire. C'est 67% de l'énergie totale de l'univers dans cette expansion-là. Et en fait, et on parle d'un autre mystère dont je parle aujourd'hui dans Libération, qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un autre mystère de l'univers, c'est où est l'antimatière. C'est qu'on sait que pendant le Big Bang, il y a autant de matière que d'antimatière qui ont été créées, sauf qu'on ne sait pas où est l'antimatière, parce que autrement on serait annihilé depuis longtemps si on était en même chose. Et en fait, il y a des gens qui disent, bah ouais, mais il y a eu 99,99999% d'antimatière par rapport à la matière, et nous on est le 0,00001 qui reste, c'est la matière qu'on connaît dans l'univers.
Et le reste, ça serait du coup...
Le reste aurait été annihilé au moment du Big Bang, enfin machin. Et lui, il dit non, il y a eu autant d'antimatière que de matière qui a été créée. L'antimatière est toujours parmi nous, sauf que l'antimatière génère de la gravité répulsive. Ça, ce qui est contraire à toute la cosmologie actuelle, qui la gravité est une force qui va que dans un sens. Il n'y a pas de gravité répulsive. Et lui, il dit l'antimatière peut être une gravité répulsive. Et en fait, il montre comment ça passe quasiment tous les tests cosmologiques liés aux observations, pas tous encore, mais presque, et il y a des résultats assez surprenants. Après, en fait, il explique que c'est une théorie, ce qu'on appelle les théories exotiques, c'est-à-dire c'est des théories qui sont pas encore prouvées, mais il y a un truc qui est très séduisant en fait.
Mais qui fit bien les théories actuelles et qui explique des choses qu'on n'arrive pas à expliquer.
Et intellectuellement, en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que la matière étant la gravité attractive, et ben en fait, c'est formé en planètes, en galaxies, etc. Et l'antimatière, et ben en fait, c'est dilué dans tout le vide de l'espace parce que c'est une gravité répulsive. Et donc c'est pour ça que ça rentre pas en conflit. Et alors, ce qui est encore plus passionnant, c'est que donc c'est une théorie, une nouvelle théorie. On connaît les cordes, la gravité quantique à boucle et tout ça. De toute façon, on sait très bien qu'on peut pas les prouver. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Et ben dans quelques mois, il y a au CERN, donc ceux qui ont le LHC et tout ça, au CERN, il va y avoir des expériences qui vont peser des atomes d'antihydrogène. Qu'est-ce que des atomes d'antihydrogène? Et bien, c'est un antiproton avec un antiélectron qui est un positron qui tourne autour.
C'est pas le début de Half-Life 2, ça?
Ils vont essayer de peser un atome d'antihydrogène. Alors il faut savoir que pour peser un atome d'antihydrogène,
une toute petite balance.
Et ben c'est ça. Et en fait les atomes d'antihydrogène, les atomes, ça va tellement vite, ça a telle vitesse, il faut les baisser à quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu.
Pour que le niveau d'énergie soit bas en fait.
Il faut que le niveau d'énergie soit suffisamment bas pour que le mouvement cinétique puisse observer la force de gravitation. Et imaginez ce qui se passera si cette expérience du CERN réussit, déjà, ce qui n'est pas gagné, mais montre que le noyau d'antihydrogène réagit à une gravité répulsive, à une antigravité. Et bien ça validerait pas l'ensemble du modèle cosmologique de Chardin, mais ça posera des vraies questions sur l'univers. Enfin bref, ce bouquin est délirament passionnant. C'est trop compliqué à plein d'endroits, mais en tout cas voilà, il y a ce dernier chapitre où il explique son modèle. Il explique encore une fois que c'est un modèle exotique, que c'est pas du tout validé encore. Mais on a envie d'y croire. En tout cas, on a envie de suivre ces expériences de pesage de l'antihydrogène, parce que ça, c'est quand même hyper cool.
Il était bien cet épisode de Silence, on théorise.
Pardon, je crois que je me suis fait deux tunnels.
C'est génial. Ça me passionne ces sujets-là. Je suis sûr que dans les auditeurs, il y en a qui vont dire, ah, il faut une vraie émission sur la science.
Ça s'appelait le 56 cast. Ça va peut-être revenir.
C'est ça.
Voilà, et ben c'est fini pour cette semaine. On se retrouve pour la dernière émission de la 11e saison de Silence, on joue la semaine prochaine. Merci à tous les deux et ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.